Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Avec moi aujourd'hui pour ce podcast d'actualité, numéroté 377, nous avons Julien en pleine
forme. Bonjour, ça va bien?
Nous avons Carole, toujours en pleine forme. Et Johnny One, notre sexy barbu, toujours en pleine forme aussi.
Ça me fait plaisir de retrouver le podcast, ça faisait longtemps.
C'est vrai?
J'avais pas été invité.
Bah oui, ça fait...
Il y a Epona en plus.
On a Epona aussi qui nous fera peut-être une prédiction à un moment, mais... Nous allons d'abord passer au thème de cette semaine. Il y en a trois. Voilà.
Ah, c'est beau.
Trois, c'est pas beaucoup.
Mais
en même temps,
semaine.
C'est énorme puisque nous allons parler de Final Fantasy XV. Nous allons revenir dessus. Nous en parlions la semaine dernière. Nous disions attendons que Julien revienne puisqu'il était à Los Angeles pour l'événement Uncovered. Et oui, c'est pour ça. Donc, on va parler de Final Fantasy XV, de toutes les annonces qui ont eu lieu avant et pendant aussi l'événement.
Il y en a eu pas mal avant.
Évidemment, nous parlerons aussi d'Uncharted 4 que Carole a pu essayer en solo, cette petite vénarde, et elle va nous dire des choses très intéressantes dessus. Et enfin, on va finir avec le plus dur, le plus méchant,
dans
le plus sale, c'est Dark Souls 3 qui arrive le 12 avril, hein, n'est-ce pas, sur, sur Xbox One, PC et PS4. Johnny, tu l'as retourné. Nous aussi d'ailleurs, on l'a retourné au 1er avril, mais d'une façon un peu différente. Et tu vas nous expliquer en quoi c'est un bon épisode.
Mais avant ça... Et moi, je le fais gagner sur mon Twitter. Si vous me suivez.
Tu fais ta pub, toi, tranquille.
C'est sympa, toi.
Non, mais alors là, j'en reviens pas.
La version que vous voulez,
c'est honteux.
Bah oui.
Allez-y, follow RT.
Bon, bah puisque c'est ça, on va passer...
Unfollowez-le, ce sera moins ça. Moins fatigant.
Puisque c'est ça, on va passer...
un collecteur d'Uncharted 4, je crois. PS4.
Non, mais c'est quoi?
Mais tu fais gagner quoi, d'ailleurs?
Bah moi, justement, rien du tout. Moi, je respecte mes followers.
Ah la vache, j'en aurais entendu des trucs. Vous savez quoi? On va passer... au win de la semaine. Mais j'ai un petit problème, c'est que j'ai oublié de dire à qui je le donnais cette semaine.
Alors
je vais me diriger vers toi, Carole.
Non.
Si, parce qu'en fait, tu te rappelles, il y a pas très longtemps, on a fait une vidéo concernant Mitomo.
C'est vrai.
D'ailleurs, c'était même hier, au moment où on enregistre.
Mitomo.
Et eh bien,
ce podcast débile.
Le win de la semaine.
Tomo de Tomodachi. Oui, le lancement.
Et ben oui, c'est le lancement parce
le
que
lancement
ça fait un carton.
Ça cartonne.
Tu te rappelles du chiffre?
Tu as des chiffres?
Non,
ah non, c'est... justement.
Tu les sais.
Mais... 3 millions.
3 millions juste après le lancement, 24 heures après le lancement européen.
C'est juste incroyable. Et en même temps, ça m'étonne pas parce que c'est vrai que pourquoi il est mort de rire, on ne sait pas et on ne le saura jamais.
Ça se passe partout, c'est juste incroyable. D'accord. Non, c'est bien, c'est bien. Il est premier en plus
sur
tous
les App
Store.
Sur tous les
App Store. Ouais,
c'est ça qui est intéressant, c'est que sur Android, sur iOS, bim, numéro 1.
Bah, c'est vrai que tout le monde l'attendait un petit peu. Et puis, c'est vrai que c'est un peu nouveau, finalement, une application Nintendo sur téléphone. Voilà, ça apporte quelque chose de novateur. Et puis, c'est super mignon. Alors, on en parlait effectivement hier lors d'une petite émission.
Hein, vers ce débat.
Voilà, on vous renvoie vers ce débat.
Évidemment.
C'est assez sympa, mais pour l'instant, je pense qu'on peut, on peut attendre mieux.
C'est
de
un peu
ce
sec.
Mini-tomo. C'est un peu, ça peut être un peu redondant au bout d'un petit moment, surtout quand on a déjà joué à la Maison du Style ou encore à
tout le monde
Tomodachi
Life.
Voilà. Ah non, mais tu sais que c'est génial en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un mini Tomodachi Life où il manque certaines choses.
Très mini.
Voilà, exactement, très mi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, tu peux t'ennuyer très rapidement.
Alors, pour des gens qui n'y sont pas, tu peux t'y amuser peut-être.
Tu t'y amuses quand on y est, tu t'y amuses quand même. C'est vrai qu'on s'amuse,
Ah bah on se fend la gueule, hein. Moi je te dis, encore ce matin j'ai regardé tes réponses, j'étais mort de rire.
Voilà, c'est vrai, t'as vu mes réponses.
Assez mollement, hein.
C'est vrai.
Oui, non, mais
je pense que tu peux très vite tourner en rond.
Je trouve ça très sympa, très mignon, très bien fait, très malin, etc. Enfin, franchement, on tourne quand même ultra en rond. Et une fois que t'as dit quel est ton pain préféré,
ouais, c'est ce que je viens de dire quand on est en rond. Tu sais pas
changer,
exactement ce que
télé,
je dis. Tu n'as aucune personnalité,
mais nous,
Julien.
Nous jugeons ce qui est disponible maintenant. Et ce qui est disponible maintenant, c'est cool, c'est sympa, c'est cool que Nintendo se mette au smartphone. Mais enfin, pour l'instant, c'est satisfaisant. Pas
bon, en tout cas, c'est
ça,
un carton. Johnny,
pour
tu as eu l'occasion
de
l'essayer?
Moi, j'ai testé vite fait avec Julo. J'y ai joué 10 minutes.
D'accord.
Pas plus que ça, mais c'est assez rigolo.
Donc, c'est vachement amusé.
Je suis pas allé plus loin que. J'ai pas vraiment testé en fait. Mais c'est assez marrant parce qu'on a donc une appli Nintendo qui chez moi tourne sur ma tablette Sony.
Ah, c'est rigolo.
Alors que Microsoft, eux, leur appli Xbox sur ma tablette, elle ne fonctionne pas.
Ah bon,
d'accord. Ouais. Donc là, ils ont laissé tourner leur appli sur le matériel des concurrents.
C'est pas sur, enfin c'est Android, et quand c'est Android, quel que soit le matériel, Android, enfin, le constructeur, iOS, après normalement ça marche.
Ah non, je t'assure que
Microsoft, ils ont loqué
sur
le truc.
Donc moi j'ai une Xperia, sur ma tablette Sony, donc l'appli Microsoft elle fonctionne pas. Voilà.
Qui est Android, on est d'accord.
Ah ouais, sur Android. Ouais. Android.
Alors l'ouverture du côté de Nintendo et non du côté de chez Microsoft. Incroyable.
Je suis surpris, mais bon.
En tout cas, Tomodachi Life, c'est sorti chez nous.
Non,
le 30...
c'est pas Tomodachi Life, c'est
Mitomo. Qu'est-ce que tu me fais dire?
Bah, tu fais des
mythos. C'est toi Donc, c'était le 31 mars que c'est sorti en Europe et aux États-Unis. Et ça cartonne de ouf, comme on dit chez les jeunes.
Et il faudra voir combien de temps.
On peut imaginer que au moment où on enregistre, ça se trouve, les 5 millions ont été passés.
Probablement,
peut-être
espéré pas. Pour Nintendo, mais il faut qu'il.
Mais l'avenir
du contenu,
de Nintendo est peut-être partiellement, peut-être même totalement sur les jeux mobiles.
C'est possible
hein,
aussi.
J'espère
hein.
pas, quand même.
J'espère pas non plus. Mais
je crois
qu'il
y a pas beaucoup de hardcore fans de Nintendo, à commencer par Nico, qu'on salue, qui espère ce genre de revirement. En tout cas,
on va faire un gros podcast sur Nintendo prochainement.
Quand?
Bah la semaine prochaine.
Ah ouais, ouais. C'est incroyable.
Teasing.
Pourtant je serai en vacances. Comment c'est possible?
Bah parce qu'on est des magiciens.
Ah ok. On va passer au fail de la semaine. Qui là par contre c'est pas des bons chiffres. C'est pas c'est... En fait c'est drôle. Et sans être drôle.
Ouais. De mauvais goût.
Bah disons que ça... Oui c'est de mauvais goût. Mais en même temps l'internet est de mauvais goût. Oui, Julien,
ah oui,
tu oui.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Alors,
bien,
enfin,
c'est
oui,
une histoire d'intelligence
artificielle.
C'est l'intelligence. On parlait de Microsoft qui n'était
oui,
pas très ouvert. Bah là, ils se sont fait un peu ouvrir en deux. parce qu'ils ont lancé, c'est une bonne idée, une IA sur Twitter qui s'appelle Tay. T-A-Y, Tay. Et Tay, bah, elle aurait mieux fait de se taire. C'est un bot. Et les bots vont exploser dans les mois à venir.
On Google sait Facebook... a déjà lancé le sien, d'ailleurs, depuis des années, qui nous répond. On peut entretenir des conversations très bien avec lui. Je lui ai pas fait dire des trucs révisionnistes, des trucs comme ça. Il faudrait que je vois si c'est possible.
Bah, je pense que ça... je crains que ça le soit. Hein.
Ouais, parce que,
le problème, c'est que là, ils l'ont lancé sur Twitter, plateforme ô combien connue. Pour évidemment son respect de la netiquette,
sa mesure,
son respect des utilisateurs, la parole bien cadrée, sympathique et
toujours chaleureuse,
évidemment. Toujours. Et donc en fait, bah, ce bot, on pouvait lui poser des questions via des tweets et puis elle était censée vous répondre. Sauf qu'en fait, c'est une intelligence artificielle qui apprend en se nourrissant en fait des données qui circulent sur le net. Et donc évidemment, il y a des petits malins tellement drôles et rigolos qui lui ont posé des questions assez sordides et elle est tombée dans chacun des pièges. Est-ce qu'Hitler est le mec le plus hype? Évidemment, Hitler c'est mon buddy. ça c'est pour les trucs pas très drôles, des trucs ultra révisionnistes. Donc en gros, c'est devenu une IA nazie extrêmement rapidement. Elle a été quand même capable en 8 heures, les 8 premières heures de son existence, de balancer 93 000 tweets. La machine, quoi. Ça permet de prendre en considération un peu le monde qui nous attend. Hein. Deux choses. Un, ça veut dire que les mecs qui font ça sont des naïfs absolus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout imaginé que des gens vicelards allaient poser des questions à la
Bien
petite
sûr.
Créature sympathique qu'ils ont créée. Et en cela, je vous renvoie au film Chappie, qui finalement est un peu sur le même modèle. C'est-à-dire que ces machines-là, on les crée. Elles sont neutres, comme un enfant. Tout frêle et tout fragile. Et puis, bah, nous, humains, tellement bien intentionnés, on les pervertit. Voilà.
Ou Ex Machina aussi.
Ou Ex Machina.
Ou effectivement, là,
mais dans Ex Machina,
coup,
elle se pervertit
IA,
un peu.
Elle se pervertit elle-même. Mais on vous en dit pas plus.
Mais là, vous voyez pour les premiums à l'écran qu'il y avait une autre
relation
suspense.
J'arrive. T'inquiète. Donc, ils l'ont arrêté une première fois. Parce qu'à un moment, ça partait un peu en vrille. D'autant que, pour la petite anecdote, au même moment, enfin dans la même période, ils tenaient une conférence où ils étaient en train d'annoncer que l'un des prochains avenirs du net, etc., et que Microsoft en serait totalement partie prenante, c'était les bots. Et donc, bon, ça faisait un peu tâcheron. Hein. D'ailleurs, Satya Nadella, big boss de Microsoft, a dit qu'ils avaient raté ce lancement de Tay. Bon, ils l'ont quand même remis. Alors, on ne sait pas vraiment s'ils l'ont remis ou si elle s'est remise ou si un mec a mal configuré le truc, etc.
C'était en fait dans une période de test et ça a été remis en ligne par erreur.
Voilà.
Par environ une heure.
On en reparlera d'autres erreurs de mise en ligne de contenu. Et là, bah, d'autres personnes ont, et c'est pour ça aussi qu'on en parle nous dans le podcast de Gameblog, lui ont demandé, bon alors, tout à fait entre nous, toi l'IA de Microsoft, c'est laquelle la meilleure console? C'est la Wii U? C'est la PS4? C'est la Xbox One? Alors, première réponse, la PS4 elle est moins chère, puis elle est mieux. Voilà. Et puis après, deuxième réponse, c'est bah, évidemment la PS4, parce que bon, la Xbox One, elle a pas de jeu. Voilà. Donc merci l'IA de Microsoft. Alors je sais pas si c'est de la franchise, si c'est de la naïveté, si c'est de la débilité. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, en tout cas, ça fait tâche.
C'est ironique et très drôle.
Bah, il faut voir comment fonctionnent les algorithmes, les calcul, bah, des trucs comme ça. À mon avis, elle a référencé sur Google.
Exactement. Bah, je pense qu'elle prend toutes les réponses, les commentaires, les tweets, les gens, ce qu'en disent les gens, quoi, tout simplement.
Et le monde a choisi. Et le monde a choisi la PS4 en termes de console de jeu. Hein.
Après, je pense que pour elle, elle a lu beaucoup plus d'avis positifs sur la PS4 que sur la Xbox One. Donc bon, bah, pour elle, bon, bah, c'est la PS4. Tout simple, c'est tout court en fait. Hein.
Et ce qui est assez flippant, parce que ça permet de voir que quand même les thèses conspirationnistes dont elle a parlé à d'autres moments sur d'autres tweets, visiblement dominent la réalité, ou en tout cas les faits historiquement déterminés. C'est un peu flippant quand même de ce qui circule sur le net dans l'absolu. Après,
bah, de se dire qu'il y en a ailleurs que dans la tête de Traz, ouais, c'est vraiment flippant, ouais. Très très flippant.
Et Traz est pas le plus flippant quand même. Oh bah heureusement que non. Sur les thèmes qui ont été abordés par Taï, a priori non, ça va.
Ouais.
Il est du bon côté de la barrière.
Bon, on va dire que ouais pour cette fois, mais je suis pas sûr.
Sûr.
Non, t'inquiète, tout va bien. Bon bah
on
maintenant qu'on a fait,
on aurait pu lui demander est-ce qu'Epona est un bon chat ou un bon chien.
Est-ce que c'est un bon chat?
Bah évidemment, elle a répondu un bon chat.
Vous dans les commentaires, n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis.
Epona chien.
Est-ce que c'est un gros chien ou est-ce que c'est un gros chat?
Ok, ce podcast est en train de devenir n'importe quoi. Nous allons vite nous recentrer.
C'est ça qui est beau. Mais c'est ça qui est beau parce que dans le n'importe
quoi, premier thème,
c'est que le Big Bang, etc., ça a été une soupe où tous les atomes, etc.,
on peut pas passer trop de temps. Il est insupportable.
Ça n'a pas été totalement cadré. Et il faut une place au n'importe quoi. C'est dans
attends,
ces moments-là qu'il y a quelque chose qui
naît. Et ça, il va te l'expliquer en plusieurs points. Vas-y Julien, toi.
Alors, synthèse, je me lève, hein, évidemment, et je disparais de l'écran. Et là, les gens qui sont premium se disent putain, enfin une plus-value à être premium. Il se passe des choses dans cette vidéo.
Voir son
sinon, on est toujours assis. Et bien là, non, je peux venir, je peux me rapprocher de toi,
bon.
Et de toi, là, qui est là.
Mais est-ce que tu es vraiment là?
Et bien, alors, ça, c'est une vraie bonne question et j'aimerais bien qu'on se pose quelques instants pour y répondre. Effectivement,
non,
beaucoup de philosophes.
Non, laisse-le faire son podcast.
Non, c'est pas ça, c'est qu'à la fin, quand il va me dire, mais
je
le podcast
dire,
a duré trop longtemps.
Long,
tu
voilà,
vois, voilà,
exactement.
Mais oui, j'ai
Et il le réécoutera et il dira, ouais, t'es trop long.
Non, mais je voulais juste là-dessus. Il y a beaucoup de philosophes, d'autant plus en ce moment, qui posent une question et qui disent la différence entre la réalité virtuelle et le monde réel, c'est uniquement la masse de données, le volume de data. Parce que, philosophiquement, quelle est la preuve tangible et totalement
que nous sommes
totale
là
qui fait que là, nous ne sommes pas dans une réalité alternative? Je vous laisse avec ça.
Mais ça, c'est la question qu'on se pose depuis qu'on est gamin, c'est
exactement.
Ça
absolument.
Voilà. Oui, ok, on va surtout passer au premier thème de la semaine.
C'est une interrogation, peut-être l'une des plus intéressantes de ce podcast, finalement.
Ouh là 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 là. Bon,
le reste, hein, c'est que du jeu vidéo.
Qui l'a déclenché? Ah,
c'est moi qui vais continuer à parler.
Petite musique un peu sympathique qui fait beaucoup plaisir à Carole, parce que c'est elle qui m'a totalement conseillé cette musique.
Ça fait 72
pour
ans
lancer, pour lancer le premier thème de ce podcast, le premier thème officiel, puisqu'il s'agit de Final Fantasy XV.
Que c'est beau, que c'est beau. Elle est
puisque
tellement belle,
nuit,
elle est tellement belle cette musique.
Dans la nuit du 30
pourrais l'écouter en boucle. Pas toi
au 31
si,
mars.
Si, tu pourrais. Écoutez, c'est beau.
Et après, vous allez encore me dire que le podcast est trop long.
Ouais, mais les gens sont en train de vivre une expérience. Sinon, ils vivent un truc complètement aseptisé. Là, ils vivent un truc. Là, ils se disent. Il y a
ce
ceux qui détestent et il y a ceux qui adorent. Et
moi, ce que je me dis, c'est que vous avez vraiment bu trop de café tous les deux.
Cette musique, elle est juste incroyable. Elle me met des papillons dans le ventre.
Asie,
non?
Bien sûr.
Allez, ça repart. Attention.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la
la
la la
la. Ce podcast est hors de contrôle. Voilà. Faut dire les choses.
C'est plus beau moment. Je pense que ça va être là. Attends.
Attends, oui, c'est beau, il y a piano là.
Là, je te ferai chier pareil avec la musique de Dark Souls.
Si tu veux,
ça sera j'ai plus
aucune prise sur ces podcasts.
Envoyez-nous Vine à Julien Chies, Carole Quinten. Vous chantez comme ça cette chanson. On vous retweet, vous êtes formidables, on vous aime. Voilà. Alors il faut parler.
C'était
le
beau.
Podcast avance.
Quel moment.
Faut peut-être recadrer.
Oui, on perd du temps là.
Toi, un jour, c'est ce qui va se passer. Tu vas prendre le micro dans l'œil et c'est tout ce qui va arriver.
Dans l'œil.
Mais
dans l'œil.
C'est pour ça que j'ai des lunettes pour être protégé.
T'inquiète, ça explosera avec. Non, mais Final Fantasy XV, soyons à nouveau sérieux.
Bien sûr.
Tu étais à l'événement Uncovered qui a eu à Los Angeles, qui pour nous se déroulait dans la nuit du 30 au 31 mars dernier.
Tout à fait.
Et t'as eu déjà une bonne surprise avant même que ça commence.
Quelle surprise ?
C'est les fuites.
C'est ça.
Parce que t'avais dit de mettre tes couches, mon chat.
C'est beau, c'est beau. C'est vrai que l'un des temps forts de cet événement, qui 10 ans après l'annonce initiale
de Fantasy,
je m'en souviens, j'y étais, c'était à Los Angeles, E3 2006. On avait le Fabula Crystallis, Novalis, mes trucs, plein de trucs en is, où il y avait Versus 13 qui allait devenir, près d'une décennie après, Final Fantasy XV, repris sous la houlette de Hajime Tabata, qui a dégagé
Tetsuya Nomura,
voilà, qui a été mis dans le placard FF7 Remake. Bon, il y a un placard plus dégueulasse, hein, mais enfin quand même. Donc ça y est, on devait avoir enfin la date de sortie de ce jeu à la toute fin de l'événement. C'était super
feu
épais,
d'artifice,
etc. Machin. Bon, sauf que le problème, c'est que nos amis de GameSpot n'ont pas compris que sur YouTube, il y a un bouton qui s'appelle vidéo privée ou publique. Ça fait combien de temps que ça existe, GameSpot? 3-4 jours 5-6 mois?
Je sais pas, c'est comme IGN Italie, hein. Je crois qu'ils ont un peu du mal à...
Ils se sont dit, bon, on a l'exclu du truc, etc. Alors comment on fait? Public? Stagiaire, vas-y, occupe-toi de la vidéo, là.
Ça doit être ça, ouais.
Donc ça a fuité. Bon.
Et il n'y a pas eu que ça.
Tout à fait entre nous, on a signé des NDA. C'est stipulé qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'il y a marqué dessus, donc je ne vous le dirai pas. Cela dit, dans chaque NDA que nous signons depuis des années, nous avons parfois... des amendes si nous transgressons les règles qu'ils ont édictées, à savoir ne pas dire avant l'heure, etc. Je peux te dire que celle-là, elle est particulièrement salée. J'aimerais
avoir une
nouvelles de GameSpot pour savoir s'ils ont payé cette amende, parce que franchement,
t'as une note à me donner, justement, une petite
le monde
il a les chiffres, mais il peut pas en parler.
Off, je vous le dirai, franchement, s'ils payent ça, ça va être sympa. néanmoins, je leur souhaite pas, mais enfin bon, ils nous ont quand même un peu brisé la surprise, et je pense plus au dev qui avait mis en scène le truc.
Ça fait
tellement longtemps que t'attends, et même aux joueurs, enfin nous,
ça enlève de la magie à l'événement, quoi.
Bien sûr, nous, Gameblog, on se doit de le relayer, le truc devient public, enfin, on fait de l'info, on n'est pas là pour avoir des états.
Mais même pour vous qui êtes sur place, vous allez assister à un petit spectacle, mine de rien.
Un petit spectacle avec des gens qui dansent.
Non, mais je veux dire, quand je parle d'un show, quoi.
Bien sûr.
Mais...
T'es un peu deg, ouais, honnêtement. Autre fuite, c'est il va y avoir la démo, ce sera ça, regarde les premières. Bon, on était un peu deg, et pour tout vous dire, on se demandait un peu, c'était un peu la soupe à la grimace. Il y avait nos différents confrères, jeuxvideo.com, GamerGen, GameCult, Jeuxvideo Magazine et compagnie. Le matin, parce que pour nous c'était le matin, quand on s'est retrouvé et que les fuites étaient arrivées, on s'est un peu tous regardés, on papotait avec les gens de Square, on disait dans
qu'est-ce
votre super
fait,
event là, qui fait qu'on reste que 48 heures et que ça va être un peu speed et machin, là, on va quand même apprendre plus de trucs que ce qui vient de fuiter quand même, parce que sinon vous inquiétez pas,
jouer à une super démo.
Mais je peux vous dire que entre nous, moi j'étais peut-être le plus positif, je me disais non mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire 1h30 juste sur deux annonces, donc il y aura sûrement d'autres trucs. Mais sinon c'était plutôt tendance, genre 70% non mais laisse tomber, ça va être tout pété. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Et je trouve, je sais, vous l'avez tous regardé.
Ouais, l'annonce de Cranky à la fin dans Final Fantasy XV,
je trouve
surprise.
Que c'est l'un des meilleurs événements, l'une des meilleures conférences de jeux vidéo, j'aurais envie de dire, de l'histoire.
Tu veux nous expliquer pourquoi? On va faire le déroulé.
1h30 sur un seul jeu et pas te faire chier une seule fois. En ayant globalement quand même deux vraies annonces, enfin deux DE,
mais
plusieurs.
Toi, t'en serais capable, ça? De nous parler pendant 1h30 du jeu.
Oui,
sans nous
c'est pas parce que je serais capable d'en parler que c'est intéressant.
Ouais, mais justement, donc ça veut dire que les prouesses peuvent être produites.
Les deux mecs, là, Greg Miller et Tim, je ne sais comment, se sont très bien démerdés.
Ouais, ils ont assuré,
avec
c'est
le
clair.
Mec qui faisait la voix off et tout.
Par contre,
cool.
Le pré-show, c'était moins.
Alors,
c'était
le pré-show, moi, je l'ai découvert qu'à mon retour en le regardant à 4h du matin avec Carole.
On l'a re-regardé,
on s'est
re-regardé.
On a regardé deux fois.
Moi, je l'ai regardé quand il était là-bas, lui, il était là-bas, et puis quand il est revenu, on s'est dit, on va quand même le regarder.
C'est ça, bien sûr, histoire d'être sûr que rien n'avait échappé. Bref, le pré-show était à peu près catastrophique.
C'était incroyable.
Un peu, mais bon, le show en lui-même était vraiment cool. Les trailers sont à tomber par terre. Je mettrai un petit bémol, à savoir que clairement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai joué, ce sont des images qui ne tournent pas sur une PS4 et une Xbox One, mais probablement sur un kit ou une PS4K. Quand je dis un kit, c'est plutôt un PC. Alors, c'est pas une annonce, mais enfin, ils l'ont sous-entendu tellement clairement qu'on sent bien qu'il y aura une version PC, mais dans un deuxième temps. Ça n'a pas l'air de prendre le chemin pour un lancement simultané sur PC. Et ça, on sent très clairement que c'est des images sur PC, puisque après, lorsque tu joues à la démo, j'ai trouvé ça esthétiquement somptueux. Mais techniquement, il y a quand même encore un peu d'aliasing. Le framerate, c'est pas la folie.
Oui, ça a été beaucoup débattu, le framerate de la démo.
Moi,
qui s'appelle comment d'ailleurs cette démo? Elle s'appelle
Platinum Demo. C'est une démo essentiellement technologique, et ça a dérouté beaucoup de gens. je comprends. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit ça va diviser, parce que même sur place, nous, ça nous divisait. Mais moi, je trouve que c'est un très bon choix. Un, parce que bah, il est surprenant. Et quand t'es surpris, tu crées une émotion et tu te dis bah merde, qu'est-ce que c'est que ça et tout, ça te désarçonne un peu. Finalement, il y a quand même plein de petites choses à faire. Si tu vas tout droit, si tu veux le speedrunner, mais franchement, je pense qu'en 7 minutes, c'est fini et tu n'y vois aucun intérêt. Ok. Sauf que c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de jouer avec des socles au sol qui vont permettre de faire changer le cycle jour-nuit, donc de tester des situations de nuit, de jour, etc. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces du moteur hein, qui permet des affichages de lumière, que ce soit sur PS4 ou
c'est
Xbox
ça, c'est
One.
C'est pour découvrir
absolument
les paysages à voilà. Différents moments de la journée aussi.
T'as quatre lieux principaux que tu vas voir au fur et à mesure qui ont pour moi un vrai sens, c'est-à-dire il y a un truc un peu couloir, il y a un truc beaucoup plus ouvert, il y a un truc tout en verticalité, il y a des combats contre des petits mignons à la con, il y a un truc où t'as une échelle de proportions complètement cassée, tu deviens lilliputien dans un monde gigantesque où t'as l'impression que Carbuncle, donc l'espèce ressemble à l'Asgardian.
T'as Carbuncle en pote avec toi, ouais, c'est génial.
Et d'ailleurs,
ça.
À la fin en fait de cette démo, si tu
la
finis,
parce que c'est une invoque Carbuncle,
et tu peux le renommer. Donc évidemment, nous l'avons renommé Epona. Ah. Nous pourrons jouer avec Epona. Le combat de boss à la fin est vraiment plutôt cool. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petits éléments à picorer vraiment intéressants. Mm-hmm. Mais une fois de plus, encore faut-il se donner la peine d'essayer de voir. Et oui, et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ce sera pas du tout dans le jeu. Et donc, il n'y aura pas de redite quand, puisqu'on ne l'a pas dit finalement, quand le 30 septembre 2016, jeu sortira vraiment, enfin, ce passage de jeu, on va pas se le refader, quoi. Il n'y aura pas ce moment où on va faire « Oui, alors, ok, ça j'ai déjà fait, bon, alors je vais le rusher un peu parce que je le connais par cœur. »
Après, il n'y a rien qui dit que dans la version finale, on n'incarnera pas Noctis étant enfant.
Mais pas
voilà.
Cette séquence-là,
mais
en
pas
tout cas.
Cette séquence-là. Mais c'est vrai voilà. Que ça nous a appris pas mal de choses, notamment à se servir des petites plaques. Avec lesquels on va pouvoir aussi se transformer en voiture.
Alors, ce ne sera pas dans le jeu. Hein.
Voilà. Mais
ça, ce ne sera pas dans le jeu. Mais ça nous a permis de voir voilà. Un peu les modes de contrôle, les certains objets, certaines créatures, parce qu'on peut se transformer en ennemis qu'on rencontrera.
Exactement.
Enfin,
voilà.
Mécanique que tu retrouveras dans le jeu final.
Ouais.
Exactement.
Donc, moi, j'ai
voilà.
Trouvé ça vraiment plutôt chouette. Et puis, il y a des passages, celui que vous êtes en train de voir, si vous êtes premium, parce que premium, c'est incroyable sur Gameblog.
Voilà, c'est le boss.
C'est quand tu passes de Noctis enfant à adulte, ou ado en tout cas, enfin jeune adulte. C'est classe quoi, vraiment
c'est
ça de la gueule. Et je trouve que en tout cas personnellement, moi qui aime beaucoup la série des Final Fantasy et qui ouvertement, et ça te bat pas d'hier, je le dis depuis quand même assez longtemps, et a vraiment été au final déçu par la trilogie des 13-2 et Lightning Returns, je ressens pour la première fois depuis extrêmement longtemps dans un RPG japonais, ce souffle de l'aventure, cet appel du mystère, ce côté grandiose, colossal, avec des échelles de dimensions phénoménales, avec les boss. Je sais pas si tu peux le mettre, Poufi, c'est vers la fin de la vidéo. Il y a l'espèce de titan, là, mais qui est colossal et qui pète la classe, un truc
ouais,
de fou.
Il est trop beau, hein.
Avec cette capacité qu'a Noctis de pouvoir se téléporter en jetant ses épées, et on peut changer à tout moment, hein, puisqu'on peut en équiper 4 sur le D-pad.
Il y a des changements d'invoques ou pas dans cette version, à part Ramu, qu'on avait déjà vu la première fois
dans le trailer, dans la démo, il n'y a aucune invoque.
Ah ouais,
on les voit, il y a le Léviathan, voilà, regarde,
Léviathan,
mais rien à taille.
Ouais, ouais.
Mais par contre, dans le jeu, évidemment.
Tu vois le Léviathan,
mais là, on se rend pas trop compte parce qu'on n'a pas la taille des humains, mais regarde, c'est une ville. Mais à la fin, dans quelques secondes, t'as le titan. Et le titan, t'as vu la taille, rien que sa main. Voilà,
non, bon, on dirait un...
non mais regarde, c'est.
Bah, attends, mais on dirait un titan de.
C'est Attack on Titan.
Titan.
Ouais, c'est voilà, c'est Attack on Titan qui rencontre Final Fantasy, quoi.
Ça, ajouté à la bande son qui est à tomber par terre.
Peut-être même la réécouter.
Non mais elle est Yoko Shimomura à son over summum. Elle est incroyable.
Vous voulez parler de ce thème-là, n'est-ce
pas? Bah, il y a ce thème. Moi, c'est pas mon préféré.
Ah bon?
Mais je le trouve très beau. Hein.
Mais je voulais qu'on le mette à notre mariage.
C'est ça.
Tu veux pas m'épouser?
Dispute de couple
en
direct.
Y a beaucoup de
dis donc.
Oh, wow.
Ce silence est éloquent.
Ah, éloquent. Donc il y a plein de musiques qui sont vraiment top. Les sons aussi qui sont très. Enfin, je dis vraiment la bande son en général, musique et sound design te plonge dedans. Moi, ça sent le très 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 grand jeu. J'ai
alors...
ultra envie d'y croire. Moi, déjà, honnêtement, la première démo du Skye. Épisode du Sky m'avait plutôt alléché, mais il y avait vraiment des choses à revoir, hein, c'était pas encore parfait. Là, les décors qu'on découvre sont somptueux, la vie dans les villes. S'ils se merdent pas, c'est définitivement, à mon sens, peut-être l'un des plus grands jeux de 2016.
Alors après, t'as oublié de dire en termes de technique que ça aliasait un petit
Il l'a dit, l'aliasing, les problèmes de framerate,
ouais,
etc.
C'est vrai que comme tu dis tout le temps les mêmes choses. Mais c'est vraiment léger, quoi, hein, dans les cheveux de Noctis.
Oui, et puis bon, après, voilà, ces considérations.
Ne sont pas définitives. On va peut-être vous en parler plus en détail prochainement sur Gameblog, mais a priori, la build technologique sur laquelle a été extraite cette démo date de plusieurs mois. Ça veut pas dire qu'il y aura une révolution incroyable et que soudainement le jeu sera en 9K lorsqu'il sortira. Mais enfin, il est possible que ce soit. D'ailleurs, je lui ai posé la question. Enfin, la question lui a été posée lors d'une petite séance de. Regarde là avec les choucoupes.
Par une table ronde.
En table ronde sur le framerate, etc. Ouais. Et ils ont indiqué que pour l'instant, de toute manière, c'était pas encore totalement optimisé et qu'ils avaient essayé de faire quelque chose d'assez similaire entre la PS4 et la Xbox One. Mais que d'ici la sortie, ils allaient pousser les deux machines dans leur retranchement individuel. C'est-à-dire que s'il y en a une qui peut aller plus loin, elle va plus loin, et s'il y en a une qui s'arrête avant, elle s'arrête avant. Si on en croit ces dernières années, il est possible que la PS4 soit boostée un petit peu plus.
Très bien. Mais il n'y avait pas que le jeu, évidemment, qui a été montré durant cet événement. Il y a énormément de choses. Il y a un dessin animé.
Alors, il y a un animé dont le premier épisode est d'ores et déjà disponible gratuitement. Ce sera en 5 épisodes gratuitement sur YouTube, les plateformes de stream, etc. On l'a regardé avec Carole. Vous attendez pas non plus à du chef-d'œuvre. C'est une animation, somme toute, classique, pas ultra belle.
C'est pas un coup de crayon hyper.
Et ça représente quoi par rapport à l'histoire du jeu ?
C'est très court, ça dure même pas une quinzaine de minutes. En revanche, c'est intéressant parce que ça te permet de placer bien les enjeux.
D'accord.
De commencer d'ores et déjà, 6 mois avant la sortie du jeu, à bien comprendre un peu qui sont les personnages, etc. Donc en fait, c'est assez cool.
Oui, c'est surtout centré sur les 5 personnages, quoi. Et là, mieux les connaître, quoi.
Okay. C'est les brothers, c'est les Choco Bros. Donc ça s'appelle Brotherhood. Donc c'est les 4 héros, là, les 3 qui vont escorter donc, le prince Noctis lors de sa fuite. C'est d'ailleurs ce qu'on comprend mieux avec ce premier épisode. C'est qu'il y a eu un gros problème dans la cité royale.
Faut pas trop dire, je pense.
Oui, bah voilà. Ouais. Enfin. Et puis donc, eux, ils se sont barrés. Ils sont partis. Ils sont en fuite, en fait, très clairement.
D'accord.
Et il y a un film, Brotherhood. Et il y a un film en images de synthèse cette fois-ci, là, qui a l'air de pulvériser la rétine à coups de semelles avec du papier de verre et des copeaux d'acier. qui s'appelle.
Belle image.
Qui s'appelle King's Glaives. Alors là, franchement, pour en avoir parlé avec certaines personnes très proches du dossier, a priori, on a en plus ultra rien vu et la véritable prouesse technologique, elle va se faire sur les visages et sur les animations faciales qui apparemment est du jamais vu et en terre Avatar et compagnie. Apparemment, c'est le il y a vraiment des moments, c'est de la réalité, mais en 3D. Quoi.
D'accord, 720p ou 1080p
700 milliards de p.
Ok,
60 FPS. Je sais pas combien d'ailleurs ça leur a coûté, mais à mon avis, une blinde. Parce qu'en plus, le casting vocal est d'une violence assez intersidérale, puisque autour de.
On va les donner. Bon, déjà, il y a Sean Bean, que vous connaissez bien.
Ma montée en puissance là.
Ouais, mais je sais, moi je suis un.
Alors, Sean Bean.
Déjà, voilà. Sean Bean. Ensuite, il y a Aaron Paul, que vous connaissez dans Breaking Bad. Et surtout, il y a. Et là, tu vas réussir à dire son nom. Lena Headey.
Lena Headey. Voilà.
Eliane.
Donc, il y a deux acteurs, actrices de Game of Thrones.
Et un de Breaking Bad.
Et
du coup, est-ce que Sean Bean va mourir alors ?
Voilà, est-ce que Sean Bean va encore mourir ?
Sean Bean incarne le roi.
Ah bah il va mourir. C'est réglé.
Et là c'est pas impossible qu'il meure.
C'est ça le problème.
Donc bon.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le film va tourner autour du père, alors que l'animé tournera plutôt autour de Noctis.
Alors que l'animé et le jeu seront tournés. Donc en fait c'est vraiment un pan scénaristique qui sera moins décrit dans le film, dans le jeu. Donc c'est intéressant, on aura vraiment plusieurs angles.
C'est le père de Noctis, hein, vous confirmez ?
C'est le père de
Noctis. Il va claquer. Alors là, je me dis tout de suite, il va mourir, mais genre un truc de
ouf.
Mais c'est obligé, là. C'est même pas la peine de chercher à comprendre. Il est obligé de mourir, c'est Sean Bean, c'est son destin dans les films. C'est comme ça, exactement.
En tout cas, il y a une voix.
Ouais.
Assez incroyable. Donc, un animé, un film, un jeu, une application sur Android et iOS qui sera le mini-jeu qu'on retrouvera dans le jeu, histoire de pouvoir patienter un peu, se faire la main et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Les éditions collector qui
les
sont quand même incroyables,
jusqu'à 270 balles avec
l'ultimate,
le jeu, la figurine qui coûte, j'ai regardé individuellement
140 euros. Ouais.
Donc bon,
qu'est-ce
voilà.
qu'elle est belle,
mais elle est effectivement assez belle.
Si t'es un petit peu collectionneur, je crois que l'ultimate
non mais ça a l'air cool que Final Fantasy revienne dans le game.
Ah bah alors, c'est juste Exactement.
Qui est là,
superbe transition si vous êtes premiums. Hironobu Sakaguchi qui a fait l'ouverture de la conférence. Moi, j'ai trouvé que c'était la très grande classe. Quand on sait qu'il est parti
en mauvais terme,
voire un peu évincé hein, de Square Enix, ancienne génération, enfin, sous la direction. Je ne me rappelle plus de son
Wada.
Nom de Wada, voilà, de Wada. Ça s'est très mal passé.
Avec les créatures
de l'esprit. Le nouveau président de Square Enix, clairement, je l'ai appris, essaye de, autour de la marque Final Fantasy, de faire revenir un peu les pères de la saga. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait aussi Monsieur Amano.
Bah, la saga qui va fêter ses 30 ans, non, peut-être, je crois, ou alors c'est l'année prochaine, je ne sais plus.
Ah bah l'année prochaine, elle fête ses 30 ans.
Ouais, c'est l'année prochaine, hein.
Non,
ou alors c'est cette année, hein.
Oui, c'est l'année prochaine, c'est 87.
C'est 87 il C'est Dragon Quest en 86, je suis en train de confondre.
Et bah, l'année après, 30 ans, donc l'année prochaine.
Ouais, donc Sakaguchi va peut-être être pris.
Ah bah pour moi, le fait qu'il revienne comme ça. Ouais. Qu'il le dise de manière humble mais assez forte, puisque dans son message il a quand même dit, donc je me présente, je suis comme le père de la saga Final Fantasy, et comme chaque père parfois on voit ses enfants partir et faire
c'était
des trucs un peu n'importe quoi hein, mais là je reviens parce que j'ai parlé avec Masao Tabata et il revient aux racines de ce qu'est, à mon sens, jamais être satisfait de ce qu'on fait, toujours essayer d'aller vers l'avant, de s'imposer des nouveaux challenges, de prendre des risques, etc. Pour moi c'est ça Final Fantasy, et c'est visiblement ce qu'ils veulent faire avec le 15, donc je suis de retour, enfin je suis là en tout cas, pour adouber un peu le truc. Ça ne m'étonnerait pas, mais que sur le 16 et le 17,
est-ce que tu t'imagines,
on voit un peu le nom Sakaguchi.
Moi, j'allais justement y venir. Est-ce que tu n'imaginerais pas un Final Fantasy 16 avec Hironobu Sakaguchi, Akira Toriyama et Nobuo Uematsu?
Bah Akira Toriyama n'a aucun rapport avec la saga Final Fantasy
Dragon Quest.
Donc,
ce serait un mélange avec...
Ouais, mais
si tu veux la
moi j'aimerais bien que Toriyama
ou Uematsu et...
Ouais, mais ils ont bossé ensemble sur Chrono Trigger, c'était à celui-là que je pensais en fait.
Tu veux faire un mélange avec, avec Dragon Quest,
ouais,
quoi.
Ouais, une espèce de
un très beau mélange.
Gros truc, pas forcément un Final Fantasy XVI au final,
Uematsu
mais un RPG avec les trois.
C'est vrai qu'Uematsu a juste laissé un petit message vite fait, il avait l'air ravi d'être là. C'est ironique bien sûr, et c'est vrai qu'il a rien composé sur FF15.
Mais c'est vrai que Shitaka Amano, on l'a pas beaucoup utilisé non plus ces derniers temps, ça serait pas mal.
Utiliser.
Bah oui, c'est vrai, on le fait. C'est un logo.
Sur les styles.
Oui, voilà, je sais pas si c'est là, mon petit poufi là dans ta moulinette, mais la fresque qui passe en 3D, si t'as toute la conf, elle est un peu vers le début. Il ne l'a pas. Bon. Bah regardez-la chez vous, mettez-la dans le forum, voilà, soyez sympa avec la communauté Gameblog, mettez-la dans le forum, comme ça les gens ils pourront aller le voir. Le premier qui dit ça, je lui ferai t'es super.
Moi aussi,
c'est vraiment une magnifique fresque en 2D réalisée par Amano. Ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'en fait il l'a fait il y a 10 ans. Elle a 10 ans cette fresque, et que là ils se sont dit. Ah mais attends, on va la ressortir maintenant, c'est super. Le jeu il a 10 piges, il y a plein de musiques qui ont été composées qui datent d'il y a 10 ans aussi. C'est un jeu improbable. Je rêverais, ça va être dur, mais je rêverais de pouvoir faire le post-mortem de ce jeu. Parce que alors franchement, des histoires, des engueulades, des changements de direction, des reboots internes du jeu, a priori il y en a au moins eu deux. Enfin bon bref.
Moi je serais pas surpris qu'on ait des copains auteurs qui se penchent sur la question et qui nous apprennent des choses.
Ce serait top. Enfin cette fresque là en plus ils l'ont faite en 3D en plus. C'est-à-dire qu'elle est en 2D puis elle se casse et elle passe en 3D. C'est un moment de grâce, je trouve incroyable avec la musique, c'est absolument somptueux. Donc voilà, moi j'ai l'impression que tout est réuni.
Les planètes
sont alignées. Il y a un univers. Moi je trouve d'ailleurs il portait la team Square portait un truc avec marqué Reclaim Your Throne, reprenez votre trône, et tu sens vraiment que cet événement qui a dû coûter beaucoup d'argent, il a été fait pour replacer la saga Final Fantasy au-delà de Final Fantasy XV comme un monstre, un titan de l'industrie du jeu vidéo, comme il l'a été par le passé il y a quelques décennies, et comme finalement il avait fini par se banaliser et décevoir un peu, et plus vendre trop, et même limite ne plus enthousiasmer tant les gens. On parlait d'un nouveau Final Fantasy, Lightning Returns, j'ai pas eu un hype de dingue, 13-2 pareil, ça se banalisait.
Lightning Returns, c'était spécial. Hein.
Et là, je trouve que ça, de nouveau, ça fait le truc qui a l'air ouf. Maintenant,
ça fait FF, quoi.
Maintenant, à eux d'assurer définitivement et de nous faire un truc qui déglingue totalement, sinon, évidemment, le soufflet se revidera instantanément. Mais je trouve qu'il y a en tout cas une énergie, une âme, et clairement en papotant avec eux, une volonté profonde de faire les choses bien et d'écouter vachement les fans. Et à ce titre-là, le 15e reveal, parce qu'il y avait 15 reveals, bon, tous n'étaient pas d'une importance égale, mais enfin, il y en avait des vraiment cool. Le 15e reveal, c'était un dernier trailer qui se concluait sur la voiture qui en fait se transforme
en
espèce d'aéronef, parce que les fans depuis des mois disaient ah, on veut un aéronef, on veut être sur la map et pouvoir le refaire, et on peut plus le faire depuis des décennies maintenant. Le dernier qui le fait, c'est quoi, qui le fait vraiment, c'est FF9.
Ouais, c'est
parce que dans FF10 on pouvait passer, mais c'était des points, enfin c'est des curseurs, on se téléportait.
Le 12 on pouvait le faire dans le 12, non?
Ah, je l'ai pas fait le 12.
Ouais, je l'ai pas fait non plus.
J'ai un peu lâché un peu. Ah, ouais. Je suis désolé.
On avait un peu lâché. Moi, j'ai lâché après le 10. De toute façon.
Et ben là, on pourrait le refaire. C'était pas gagné. Et en fait, ils ont bossé avec une autre équipe chez Square, mais je pense qu'ils en parleront plus tard. Et je ne sais pas si on a le droit de le dire pour l'instant, donc bah, vous attendez
non,
un petit peu.
Non, mais ça peut être
intéressant. Fais gaffe parce que là, le montant de l'embargo, j'ai pas envie de.
Ah oui, il est violent. Ouais.
Je préférerais pas être prélevé le mois prochain.
Et ah bah là, c'est plusieurs vies. et bah, c'est cool. Enfin, ils sont dans une écoute aussi, les fans. Donc. Allez, ouais, on croise les doigts, cool. Mais en tout cas, moi, clairement, après Uncharted 4, une fois qu'il sera sorti, mais c'est dans pas très longtemps, ce sera le jeu que j'attendrai le plus en 2017.
T'as parlé de quel jeu là?
Ben mec, je te travaille des transitions quoi. Je te l'ai.
Bah ok, moi je dis plus rien à ce moment-là, puisqu'on va parler d'Uncharted 4.
Je le témoin.
Je vais laisser la parole à Carole.
Vas-y, mets-moi
la
un
parole.
Vent.
À Carole. La parole à Carole.
Putain, le plus incroyable.
Faut que je fasse du slam.
C'est incroyable, excuse-moi.
Je te passe le témoin.
Ah, pardon, ouais.
Voilà.
Tout à
merci.
L'heure je te parlais que tu m'as ignoré, j'aurais pu t'ignorer aussi. Enfin.
Carole,
enfin,
t'as
passons.
Eu cette chance. Cet honneur,
oui,
j'ai envie de dire,
de
pouvoir jouer à la version solo.
Ah, tellement rien que quand j'entends la musique, je me dis que j'ai eu beaucoup de
Uncharted
chance.
Uncharted 4, qu'on a pu voir en bêta il y a pas très longtemps, on avait fait la bêta
absolument.
Multi.
Ouais, mais c'était multi.
Ça,
ouais,
c'était
ouais,
pas mal.
Multi,
on s'en fout du multi,
ouais, je m'en tape complètement.
Ouais, mais c'était pas mal.
Mais
moi, j'étais
mais
content,
après...
j'arrivais premier à mes parties. Alors,
voilà, après, il y a eu pas mal de succès autour de ça, mais, ouais. Mais moi, c'est vraiment la.
Pas mal de succès,
mais
on a jamais eu les chiffres, hein, je crois.
Ouais, à mon avis.
Mais moi, j'ai jamais les chiffres, de toute façon.
Vraiment, quand c'est un succès, t'inquiète, on te les balance, les chiffres.
Ouais, donc c'était peut-être un peu plus mitigé que ce qu'on croit.
Mais ça, bien. Mais le multi, c'est pas ce qui marche le mieux sur Uncharted de toute façon. Donc moi c'est vraiment la campagne solo que j'attendais. Et là,
alors qu'est-ce que t'as vu?
J'ai vu plein de choses, mais que tout le monde a vu. Même là il y a eu des fuites, ça m'énerve. Mais
ah bon
bah oui.
Ah bon, il y a eu des fuites.
Même
encore.
Il y a eu des fuites. Bah là on est en train de voir les images.
un partout.
Ouais, mais là tu fais de la réédite. Là franchement il y avait pas énormément de, il y avait pas aucune imagination.
Tu sais mettre un but, il suffit juste de le pousser derrière la ligne. Hein. Tu le mets du bout
non,
du pied.
Non mais là c'est pas mettre
nez,
un but.
De la main,
non
de,
là c'est
du
pas
cul,
mettre
etc.
un but. Là. Ouh là là.
Tu manques ça rentre, ça rentre.
Il va payer la facture ce soir, mais il le sait pas encore. Quoi qu'il en soit.
Tu veux un toit?
Quoi qu'il en soit. On retrouve Nathan. On retrouve Nathan, son frère Sam et bien sûr Sully, Victor Sullivan dans une nouvelle aventure. Donc là en fait on se retrouve au chapitre 10. C'était
vous avez parcouru le chapitre 10.
On a parcouru une infime partie du chapitre 10, les 12 tours. Alors déjà, ça pose une question, est-ce qu'il va falloir trouver ces fameuses 12 tours dans le scénario? Ça peut être intéressant. La question reste entière, mais en tout cas, on se retrouve dans ce chapitre 10, on doit aller au pied d'un volcan. Et donc, on va arpenter une plaine sauvage à Madagascar. Alors, je ne suis jamais allée à Madagascar.
C'est vrai?
Voilà, mais en attendant, c'est vrai.
Ah bah merde, tu fallait me le dire, on aurait pu y aller là.
T'aurais pu m'emmener quand même, bah, ça c'est pas très cool.
Bah, avec les salaires de Gameblox, tu sais,
ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est assez, assez bluffant de réalisme, c'est même super ultra
ouf,
beau. Enfin, c'est un truc de malade.
Dire ce qu'il y a,
c'est un truc de malade.
C'est une tarte dans la gueule.
C'est un truc de malade, et effectivement, comme vous pouvez le voir, ça va être donc la première fois dans la saga Uncharted qu'on peut conduire, qu'on peut piloter un véhicule.
Non. Il y a eu les jet skis dans le premier.
Oui, mais
et
c'est la première
bon
fois qu'on a un véhicule,
ouais.
Une voiture
non,
qu'on peut conduire.
Couilles,
voilà, je sais, mais t'es pas le premier en plus à me parler
aussi,
des jet skis.
Il y a des barques.
Ouais, ah non.
Il y avait pas des patins.
C'est celui qui pilote et toi tu mitrailles.
Ah, je sais pas, mais le jet ski ça m'avait épuisé dans le premier.
Ouais, mais là c'est un peu différent parce qu'on va vraiment pouvoir s'en servir à son gré et il va y avoir pas mal de séquences avec la Jeep. Comme c'est un monde qui va être non pas un monde ouvert mais un monde semi ouvert, ça va être quand même parfois.
C'est des poches d'ouverture.
Voilà, beaucoup plus pratique de
c'est
se servir de la voiture. Exactement, ça va être un petit peu ça. Et là, on va avoir des sensations qui sont quand même très très réalistes. On va sentir la moindre pierre, on va sentir la boue. Il y a des moments où tu vas glisser. Moi, je suis descendue à certains moments de la voiture avec Nate pour pouvoir explorer un petit peu mieux, puisqu'il faut trouver des chemins où tu vas pouvoir passer avec la voiture. Mm-hmm. Donc ça, tu peux le trouver assez facilement. Si tu es un peu observateur, il y a des traces de voiture, il y a des traces de pneus dans la boue. Donc là, tu sais que tu vas pouvoir passer. C'est assez compliqué. Là, par exemple, comme vous pouvez le voir, c'était trop escarpé pour la Jeep, donc on a utilisé un treuil qu'on a accroché à un arbre. Donc ça aussi, c'est vraiment un élément qui va enrichir pour moi considérablement le gameplay.
Eh bien, j'ai l'impression de voir la Batmobile dans le dernier
Arkham
Knight.
Ah non, mais c'est juste mortel et c'est ultra, ultra réaliste.
J'espère pas.
Ultra flexible.
Non, pas un tank, heureusement.
Mais en tout cas, c'est vraiment un élément pour moi qui ajoute un petit peu de sel à cette Uncharted. Bien sûr, on va avoir des ruines, on va trouver des artefacts.
Et pour le reste, c'est du TPS, c'est du cover TPS classique quand même.
Comment sont les combats? Parce que moi j'avais toujours trouvé que c'était un peu mou. C'est pas la partie la plus intéressante.
Alors justement là, on a pu comment dire vivre une séquence de gunfight. Vous allez le voir, puisqu'on a, là vous le voyez sur les images, on a continué un petit peu avec la voiture, puis au bout d'un moment on est tombé sur des ruines, sur les ruines, absolument les ruines, et puis on a sorti nos petites jumelles et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de méchants.
Je vous invite tous en même temps, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. c'est fini, hein. c'est la dernière fois.
Il me fatigue. Alors du coup on prend nos petites jumelles et puis effectivement on se rend compte qu'il y a pas mal d'ennemis, et là on va se rendre compte dans cette séquence qu'il y a une petite nouveauté également qui va se situer au niveau du marquage des ennemis.
C'est un peu MGIsé.
Ça c'est un petit peu infiltroisé. Voilà, on va avoir cette notion d'infiltration. Donc déjà là vous le voyez, on
qui existait déjà dans les précédents. Hein.
Ouais, mais là plus quand même.
Beaucoup plus. Donc là tu vois,
moi j'ai des souvenirs dans le 2 où il y a un endroit pas loin du Tibet là où je me suis fait tout le monde sans que personne me voie.
Mais regarde, oui, mais
là,
ça, c'était
carrément,
c'était,
là t'es tapis dans les hautes herbes.
C'était, voilà, là c'était.
Tu vas marquer tes cibles.
C'était possible. T'as
des
curseurs. Mais là effectivement, ça va être un petit mélange d'MGS assassin.
Vu le cadre, ça fait un peu MGS.
Et Uncharted, mais là ça fait beaucoup plus MGS effectivement, notamment MGS 5. Donc là tu vois, on se cache un petit peu dans les hautes herbes, on va s'approcher tout doucement, et puis on va avoir un système de marquage qui va faire que nos ennemis vont être détourés. Là tu le vois en jaune par exemple, mais quand ils vont être en blanc, bah ça veut dire que bon, les mecs t'ont pas cramé. Quand ça passe en jaune, ça veut dire qu'ils sont un petit peu suspicieux, et puis quand ça passe à l'orange, ça veut dire que bah voilà, tu t'es fait griller. Donc là ça va te permettre d'appréhender un petit peu la manière dont tu vas t'approcher. Ça peut simplifier un petit peu la chose.
Moi ça me fait penser à Far Cry. Et deux, je sais pas si c'est pas une, enfin je sais pas si ça va pas me sortir du truc, parce que
c'est exactement ce que je disais.
Une des choses que j'aime dans Uncharted justement, c'est l'absence de HUD, c'est l'absence de.
Alors il me semble qu'on peut le désactiver.
C'est alors vrai. Est-ce
que tu le confirmes ou pas?
Alors je ne sais pas, je n'ai pas posé la question, mais je pense, ça c'est vraiment un avis personnel. Enfin.
Non mais
parce que les histoires.
Le site Polygon est allé dans les menus et a priori a vu qu'on pouvait désactiver.
Voilà, je crois avoir entendu dire aussi que tu pourras le désactiver, et heureusement, parce que c'est vrai que ça peut simplifier considérablement la tâche.
Les histoires d'instinct et de marquage, il y a des jeux où je peux le tolérer. Uncharted,
c'est
je sais
un peu
pas si
l'essence de. Ça ressemble, ça m'a fait un peu penser à The Last of Us. Il y a du The Last of Us dans ce quatrième épisode.
Étonnant, produit par Neil Druckmann.
C'est un petit peu ça.
Pardon.
Et Bruce Trailer.
C'est un petit peu ça. En tout cas, c'est plus nerveux, plus dynamique, en tout cas que les épisodes précédents.
Ça tue la gueule.
À mon sens. Et on l'a pas dit aussi, mais on va aussi avoir un grappin. Nouvelle future de ce quatrième épisode, voilà, qui va te permettre en fait, puisque avant d'arriver à cette séquence de gunfight, j'ai trouvé une chute d'eau magnifique. Je suis passée sous l'eau et puis j'ai trouvé une caverne derrière cette chute d'eau. Donc je suis allée un petit peu explorer.
Nathan Wayne, en fait, alors.
C'est un peu ça.
J'ai donc trouvé quelques trésors, et puis je me suis servi de ce grappin pour accrocher une caisse, la tirer à moi. Mais on va aussi pouvoir s'en servir, bien sûr, pour traverser des ravins, des crevasses.
Bien
donc
sûr.
On va un peu pouvoir jouer à Tarzan
sans
les cris, bien sûr. Vous allez voir, il y a peut-être une séquence d'ailleurs où on saute, où on lance le grappin, on s'accroche à une sorte de pylône en bois, on atterrit de l'autre côté, on fait une attaque aérienne, on atterrit sur un ennemi. Enfin, c'est hyper dynamique.
C'est
vraiment
encore plus dynamique et encore plus spectaculaire.
Écoute, je trouve que justement ces petits ingrédients, donc le grappin, voilà, là vous le voyez, bam, on arrive, on le défonce. Enfin, c'est juste incroyable.
En tout cas, le gameplay là qui a été donné
assez
par Naughty Dog, parce que
propre.
Toi, tu y as joué, mais après, tu n'avais pas le droit de saisir du jeu.
Exactement.
Par contre, ils ont filé après 17 minutes ou 16 minutes. De gameplay en 1080, tout ce que tu veux.
Ouais.
Alors, toi, par exemple, quand tu y as joué, c'était entre guillemets aussi bien chorégraphié, parce que là, tu sens que le mec il sait bien où il faut aller et tout, et c'est super spectaculaire. Machin. Mais toi,
comme ils le font à chaque fois d'ailleurs.
Quand tu joues, t'arrives à linker aussi bien les trucs?
Il faut prendre bien le jeu en main, et on a eu le temps, honnêtement, puisqu'on a eu au moins une heure, j'ai eu le temps de la refaire deux fois, puisqu'on a eu un petit souci lors de cette session en fait de test. On est tous passés à côté de la séquence de gunfight, parce qu'en fait tu peux tracer. On est tous passés à côté.
Intéressant.
On est tous passés à côté.
T'es pas du tout obligé d'aller là.
Parce qu'il y a eu une erreur en fait. Il y a une petite erreur. On nous a donné une photo et on nous a dit, quand vous verrez ce paysage, parce que t'arrives à un moment donné avec la Jeep, tu montes une colline et puis t'arrives et t'as Sam ou Sully qui se redresse et qui regarde le paysage avec le volcan au loin. C'est vraiment beau. On nous a dit, quand vous voyez ça, vous vous arrêtez. Sauf qu'il y a deux moments où ça se passe, et on a tous confondu, on a cru que c'était le premier moment, et la séquence de gunfight était après. Mais c'est vrai que tu peux tracer, enfin on pouvait facilement l'éviter et penser qu'il fallait s'arrêter avant. Donc du coup, je l'ai recommencé, c'est là que j'ai découvert la caverne, je me suis permise de mener un petit peu plus d'investigation. Oui,
on l'a dans la vidéo, je crois pas.
Bah oui, je suis passée, tu passes sous la chute d'eau, je viens d'expliquer, toi non plus, tu ne l'écoutes pas.
Mais en vidéo,
oui, on l'a, elle y est. Elle y est, mais je sais pas si
Poufi
la trouvera.
Bon, de toute façon, si vous avez évidemment accès à Gameblog, je pense que vous pourrez la retrouver facilement.
Jean-Michel
hein.
Vidéo.
Mais en tout cas, effectivement, une fois que tu prends le jeu en main, oui, c'est aussi fluide que ça. Si tu arrives, si tu as un petit peu l'habitude de jouer aux jeux vidéo, tu prends rapidement les petites astuces en main, tu lances ton grappin, tu te pends, tu arrives, tu tires, enfin c'est fluide, ça marche bien, ça réagit bien.
Une question me brûle les lèvres. La présence de deux personnages de soutien, donc Sully et le frère
Sam.
Et Sam, le frère de Nathan, ils sont tous les deux à côté de toi tout le temps ?
Non, pas du tout, puisque par exemple, quand on est dans la Jeep, eux ils restent dans la Jeep quand
D'accord,
toi tu veux aller.
Il y a que toi,
voilà.
Qui te déplaces.
Toi tu te
déplaces.
Mais
c'est toi qui décides, genre viens avec moi ou c'est eux qui restent là parce
Non,
que là,
non,
il faut
ils sont
pas...
non, ils sont restés
D'accord.
là, ils sont
Et donc,
restés
après,
là.
Et après dans la séquence de
Tu vois là par exemple,
de,
on est
combat.
En train on va pas tarder à tomber dessus dans la séquence de combat, ils font leur petite life.
Ils font leur vie. Et j'imagine qu'à l'image de Last of Us et compagnie, ils n'arrêtent pas de parler.
Alors,
de faire des vannes, des machins.
Alors, il y a des vannes, il y a beaucoup de vannes, il y a pas mal de vannes.
Écrit,
par exemple,
que ça, je trouve
non,
que parfois,
alors,
c'est, soit c'est bien fait, soit ça peut devenir un peu lourd.
Justement, c'est bien. Tiens, allez, là, la chute d'eau, regarde. Effectivement, c'est assez bien écrit. Par exemple, au tout début, tu as Sully, il me semble. Non, Victor. Oui, c'est ça, Sully.
Bah, c'est Victor Sullivan,
voilà,
c'est le même,
Sullivan, ouais. qui cherche le. Comment dire, à trouver du réseau pour avoir le GPS sur son téléphone.
Pas
il
une
trouve pas de
qui
réseau.
Était déjà dans un épisode précédent, ça.
Ça ne me dit rien.
Oh, je sais plus.
Ouais, ouais. Et donc, je sais pas.
Et c'est toi qui viens de me.
Je suis fatiguée, excuse-moi.
Ouais, ouais, c'est bien. Alors.
voilà, le vrai visage de Carole. Voilà, vous le connaissez maintenant.
Jolie One, Carole, enchantée. Ouais, Carole,
non, mais je suis horrible. En fait, j'ai pas du tout entendu ce que t'avais dit.
Ok, Carole.
Ah, les ramasses de la drogue.
Oh, mais arrête.
La drogue.
Mais la drogue. qu'est-ce qu'on disait? Donc Sully cherche le réseau, ouais. Et Nat
et nous on cherche le respect hein, quand
Nat se sort de la voiture, sort sa carte et dit bah tu vois avec ça on n'a pas besoin de réseau. À un moment donné il arrive à la chute d'eau, il dit oh il y a de l'eau ici, alors t'as Sully ou Sam qui dit ah ouais sans blague, enfin c'est assez bien amené,
c'est très drôle,
c'est assez bien
ça, c'est la meilleure même.
Sur le coup c'est assez bien.
Okay, bon, la garde.
Sur le coup c'est assez efficace, voilà.
Tu y as joué en VO ou en VF?
J'y ai joué en VO.
En VO, d'accord.
Absolument, sous-titré français. Non, mais c'était vraiment une belle expérience. Et moi, je trouve que ça fait une très, très belle promesse. Ça tourne, pas de ralentissement, ça n'aliase pas.
En tout cas, ce sera
intéressant. C'est vraiment beau.
Ce sera intéressant de voir maintenant que Nathan Drake est interprété par Cyprien et Sullivan par Squeezie.
Par Squeezie, ouais.
De voir un peu comment ça va matcher au niveau des voix. Parce que c'est quand même pas le truc qu'on imagine à la base.
C'est vrai
ouais. Non.
Bien sûr.
Non, c'est un poisson d'avril.
Non. Et Sullivan, qui est un peu plus âgé, c'est le joueur du grenier.
Il a eu peur.
Oui, il a eu peur. Oui.
C'est le joueur du grenier pour Sullivan.
Mais par contre, dans Ratchet & Clank, le film, c'est bien Squeezie qui
non,
double.
Non, mais parce qu'on ne sait toujours pas qui fera les voix françaises de Final Fantasy XV, parce que parmi les choses qu'on sait aussi, c'est que Final Fantasy XV, pour la première fois, pourrait choisir les voix japonais, anglais ou français. Et la blague qui était machin et qui n'a pas été démentie, c'était vous allez prendre des youtubeurs. Moi vraiment j'ai aucun problème avec les youtubeurs à partir du moment où c'est bien fait, hein.
Fait.
Certains comédiens de voix ont plus de problèmes avec les youtubeurs que nous n'en avons, mais enfin bon c'est leur problème.
Après,
d'autant que visiblement de leur côté ils font aussi des trucs un peu bizarres, mais bon ceci ne nous regarde pas.
Bon, en tout cas, Uncharted, ça a l'air cool. Et ça sort quand déjà le 10 mai hein.
Ça sort le 10 mai.
Le 10
voilà.
mai sur PS4.
Sur PS4 en exclusivité, bien sûr.
Ah là là là.
Donc voilà, on a hâte.
Ça va être une semaine de vacances à prendre en plus, hein, je crois. Enfin, un peu moins.
Ça va être incroyable. Bah, si t'as la Nathan Drake Collection, je t'invite à tous les refaire, histoire d'être à l'heure. Je vous invite à les refaire.
Oui, c'est vrai.
Moi, ça me donne envie de tous les refaire.
D'ailleurs,
vous
pourrez même lire le test de trace de cette Nathan Drake Collection.
Qui est vraiment pas mal.
Il y a pas très longtemps et qui est vraiment pas mal. Absolument.
Ouais, c'est pas mal.
Sur Gameblog, ensuite. Okay,
n'hésitez
pas.
Allez-y, et n'oubliez pas.
Non, ça, c'est content. Ça, c'est content. Sur les philosophes. Sera bien. Est-ce qu'elle sera bien? Est-ce qu'elle sera pas bien?
On suit pas.
On suit pas.
Le dira.
Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression que vous imitez quelqu'un quand vous faites ça.
Non.
Non?
Du tout.
C'est vrai?
Il est déjà 10h?
9h plutôt.
Ah, je crois que vous imitiez notre meilleur ami. Bref. On va vous couper les micros à un moment. Alors. On va passer au troisième thème maintenant. Un thème beaucoup moins joyeux
la position des
que les deux précédents, puisque là, ça a parlé de mort, n'est-ce pas, Johnny?
Oui.
Johnny, qu'on n'a pas beaucoup entendu. On t'a pas entendu hein, beaucoup sur Uncharted. C'est, genre de, c'est ta cam un peu.
Excusez-moi, juste deux secondes. J'étais dans l'avion avec Johnny.
C'est vrai?
Mais à l'idée.
Ah.
Et Sylvie Vartan.
Voilà, c'était l'anecdote.
C'est pas Johnny J-O-H-N-Y.
Si.
Ouais. J-O-N-I.
Mais tu me diras, le héros du précédent jeu s'appelle Nathan, et dans ton prénom, il y a Nathan aussi. Enfin bref, on peut faire plein de transitions comme ça. Bref.
Non, Johnny Uncharted, ouais, si, j'ai fait le 1 et le 2, j'ai pas fait le 3.
Après, c'est vrai.
Justement, avant la sortie du 4. Ouais, non, Dark Souls 3, ouais.
Ouais, t'es mort ou pas ?
Beaucoup de fois, oui.
Ouais. Bah, tu vas nous raconter un petit peu toute ton expérience.
Bon, déjà, premier truc, oubliez FF15, oubliez Uncharted, le GOTY. Pour moi,
il est déjà là. Attends, parce que moi je sais pas, le test est paru déjà, oui.
Oui,
il a eu combien ?
4,5, indispensable. Oh là,
attention, il va falloir justifier tout ça, monsieur. Hein, présentez vos papiers aussi au passage.
Présentez les chips.
Alors pourquoi ce Dark Souls 3 mérite autant d'éloges ? Et surtout, première question, tiens, est-ce que c'est encore mieux que le 2 ?
Oui.
Est-ce que c'est encore mieux que Bloodborne ?
En fait, il y a.
Là tu bugs là quand je demande ça.
C'est deux branches différentes. Donc,
Bloodborne, il applique une. Bon, alors attends, je vais reprendre.
Ouais.
C'était quoi ta première question ?
Est-ce qu'il est mieux que le 2 ?
Est-ce qu'il est. Non, avant encore. Ça va bien ?
Ouais, est-ce que t'es mort ?
Oui, et entre les deux.
Ah, entre les deux, j'ai.
Pourquoi est-ce que c'est le meilleur ?
Ouais, pourquoi est-ce que ça serait le meilleur ?
Pourquoi est-ce que ce serait le meilleur ? Donc en fait, ce qu'il fait ce jeu, c'est qu'il reprend. Justement, c'est une recette Dark Souls. Hmm. Donc c'est la cinquième itération. Vous avez Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 et Bloodborne. Et donc là, on applique une recette pour la cinquième fois. Et en fait, ce qu'ils ont fait chez From Software, c'est qu'ils ont pris vraiment tous les meilleurs éléments de chacun des jeux.
Mm-hmm.
Ils ont mixé tout ça. Et plus qu'un best-of, on peut vraiment parler d'une relecture. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris les meilleurs éléments de chacun des jeux. Dans Dark Souls 3, on retrouve du Demon's Souls, on retrouve du Dark Souls, on retrouve du Bloodborne. On retrouve vraiment tout ça et ils ont sublimé la chose.
Uh-huh.
Et on se retrouve vraiment en présence d'un produit qui
attention
encore
je,
mieux
je,
qu'un,
je connais quelqu'un ici
best-of.
Qui n'aime pas qu'on dise le mot produit. Je tiens juste à te le signaler. Non, il a dit que c'est, on se retrouve en face d'un produit.
Mais il est viré.
Désolé.
Évidemment.
Bon, au revoir.
Non. Alors.
Ce couple horrible.
Donc, on reste dans un...
Vous seriez mieux tous les deux en fait. Hein. On est vraiment des chiens quoi.
Oui, c'est vrai. Alors, non, je suis pas d'accord parce que j'adore les chiens.
Oh, oui,
surtout la vôtre. Toujours est-il. Donc, c'est un action RPG toujours aussi dark, aussi oui. difficile.
Oui.
Moi, je le trouve beaucoup plus dynamique.
Ouais,
que les
alors,
précédents. En tout cas, c'est l'impression visuelle.
Ça, c'est l'inspiration Bloodborne.
Au niveau du gameplay, en fait, t'avais un truc dans les précédents Souls, c'était que ton personnage était assez pâteau, ouais. assez difficile à diriger, c'était
un
rigide.
Tank, hein.
Voilà.
Surtout dans Demon's Souls, hein, la suite, ça allait beaucoup mieux.
Ouais. Bah là, c'est en fait, tu sens vraiment que Bloodborne est passé par là parce que ton perso est beaucoup plus agile.
Mm.
Voilà, il se déplace plus vite, les esquives, etc. Tout ça.
Mais
on reste sur une base de gameplay à la Dark Souls, mais voilà. Bloodborne est passé par là et a fluidifié le gameplay. Les combats se déroulent un peu plus. Donc c'est toujours le même principe, hein, c'est-à-dire quand vous êtes dans un combat, faut pas y aller tête baissée.
Ouais, c'est
il faut
roulade,
attendre.
Roulade, attaque, roulade, attaque.
Voilà, le bouclier. Ça c'était plus Bloodborne, ça.
Ouais.
La roulade. Donc vous attendez que vos adversaires arrivent vers vous, vous observez leurs mouvements et vous anticipez. Par rapport aux attaques qui vont
et quand vous voyez qu'ils sont plus de deux, vous vous chiez dessus.
Et non, en fait, la technique là, c'est de les prendre un par un, hein, tout simplement.
Ouais, mais si jamais
tu les attires,
t'as pas de chance.
Ah bah, tu fuis.
Ouais. Mais c'est un peu tout le principe du truc. Mais
voilà.
Là, on est en train de voir pour les premiums qui peuvent voir
alors
la vidéo, c'est qu'il y a un
des...
boss de,
ouais.
de taré là. Il est gigantesque.
Ça, c'est un des boss optionnels du jeu. C'est le troisième que tu peux croiser dans le jeu.
Artistiquement,
c'est magnifique.
Alors la DA, elle est juste grandiose. C'est-à-dire que là, c'est toujours pareil. En fait, on a donc déjà des musiques, celles qu'on entendait tout à l'heure, celle de le menu d'intro du jeu qui est superbe. Les musiques, c'est les gars qui étaient déjà là sur les précédents jeux. Ils sont même deux ce coup-ci, avec des compositeurs issus de deux jeux précédents.
Mm-hmm.
Voilà, donc les compos sont vraiment, vraiment pas mal. L'architecture, ça rentre dans la DA, mais ça, c'est un truc dont je parlerai peut-être plus tard, le level design. C'est vraiment très, très bien fichu à ce niveau-là. Non, ouais, on s'en prend plein les mirettes. Tout est très réussi. Et un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'on a pas mal de fanservice, tout simplement.
Ah,
c'est-à-dire que
en quoi
je vais pas trop spoiler.
Tu veux dire, c'est la présence d'ennemis en particulier,
des lieux vraiment. Il y en a un dont je vous parlerai pas, il est dans le dernier quart du jeu. Vous allez y arriver. Si vous avez fait Dark Souls, vous allez faire non, c'est pas vrai, ils ont mis ça, c'est juste génial. Et sans spoiler plus loin que les 10 premières minutes du jeu, quand vous aurez battu le premier boss, vous allez débarquer dans une zone qui est en fait c'est le Nexus de Demon's Souls. Voilà, donc une espèce d'un intérieur de tour noir dans lequel vous avez des trônes tout autour. Enfin voilà, c'est vraiment super stylé. Il y a beaucoup de fanservice dans ce jeu. Voilà, donc je parlais des environnements.
Absolument.
Un des gros points forts du titre, c'est son level design en fait. Où en fait le jeu fait un truc qui est très très bien, c'est que dès que vous débarquez dans une nouvelle zone, vous avez un panorama de cette zone. Vous voyez vraiment l'ensemble l'ensemble de ce que vous allez pouvoir visiter. Mmh. C'est-à-dire, tu débarques dans une zone, il y a un château au loin, bah tu sais que le château au loin...
Oui, par exemple, le château avec le dragon gigantesque qui attaque le château, là, et des espèces de nuages de pluie de cendres qui tombent, ce que j'ai essayé à la Gamescom.
Ouais.
Effectivement, t'as un beau panorama de tout ce que tu peux... Tu peux voir où est-ce que tu vas aller, hein, d'ailleurs, à ce moment-là. Et c'est le cas pour tous les décors, donc.
Quasiment, ouais. En fait, c'est un truc qu'ils avaient essayé de faire déjà dans les premiers Dark Souls, qui a plus ou moins été fait dans Bloodborne. Et là, bah, ça atteint son paroxysme. On a vraiment, voilà. Dès que vous débarquez dans une nouvelle zone, vous êtes accueilli par un splendide panorama, et vous savez que bah, vous allez pouvoir aller tout visiter, tout simplement. Voilà.
Techniquement,
ouais.
C'était pas l'une des forces quand même de la série.
Au niveau du framerate et tout,
on
c'est
a,
ça.
J'ai l'impression en tout cas qu'il y a eu un sacré effort.
Le moteur, c'est celui de Bloodborne. Donc on a des graphismes qui sont très très beaux, qui sont soutenus par une direction artistique magnifique. Hein, faut dire
comme on
le
disait juste avant.
Et puis une architecture aussi qui est vraiment vraiment très très bien. Moi, j'ai eu des petits soucis pendant mon test, c'est-à-dire que j'ai installé un patch, le patch 1.0.1, qui malheureusement m'a fait des. Je pense que c'est ça. Hein, je l'avais lu sur le net, qui donne lieu à des chutes de framerate. Donc j'attends de voir le 1.0.2, le patch qui est déjà disponible sur la version japonaise, parce que j'ai pu discuter avec des joueurs de la version Jap qui sont en 1.0.2, ils n'ont pas du tout les mêmes soucis de framerate que moi. Voilà, donc on a mis un warning day one là-dessus sur le test. On verra, on va revenir quand on aura notre patch 1.0.2 pour savoir si au niveau technique ça
relève.
Oui,
puis comment tu l'aimes,
pas.
Mon avis, tu vas y revenir.
Je vais faire mes 100 heures dessus. Hein. Voilà.
C'est un minimum, ça me paraît correct. Au niveau gameplay, est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de classe, en termes de magie, en termes de...
Tu vois, des trucs... t'as toujours la pyro, les miracles et les...
Donc en fait, c'est le même jeu qu'avant, quoi.
Ça reprend, ouais, je te dis, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a une recette, on la prend et on la sublime. Voilà. Au niveau des nouveautés pures et dures, t'as un truc qui s'appelle les stances. En fait, quand tu vas appuyer sur R2, selon ton
arme, tu
changes de posture et chaque arme te donne accès à de nouveaux pouvoirs. T'en as un qui est assez impressionnant, tu en as besoin pour un combat de boss, je dirais pas le cas, je vous laisserai vous débrouiller. Où en fait, quand tu charges ton arme, tu charges une espèce de tornade. Alors, c'est une épée basique, hein, mais quand tu la charges, tu charges une tornade et tu vas pouvoir balancer une tornade à la gueule de tes ennemis. Voilà, c'est une des petites nouveautés du truc.
Il y a rien d'autre qui te...
T'as le retour de la jauge de mana. Enfin voilà, il y a deux trois petites nouveautés
qui avaient disparu dans le...
Qui avaient disparu, qui étaient dans Demon's Souls puis qui avaient disparu dans la suite et là qui revient.
J'ai quelques petites questions de Béotien. Et si comme moi vous avez toujours été un peu fasciné par l'univers des Dark Souls, des Demon's Souls, des Bloodborne, mais vous avez un peu peur de vous y mettre pour deux choses. Un, la difficulté. Deux, la durée de vie, enfin le temps que ça va te demander en investissement. Bah un, déjà Johnny One vous avait préparé
un petit dossier
de conseils pour bien démarrer, pour bien vous mettre dedans et histoire d'être plus à l'aise possible, en confiance en tout cas. Alors première question, c'est combien il faut investir de temps à peu près pour pouvoir peut-être pas
voir le bout.
Voilà, pour avoir le bout, sans le peut-être bout, tout voir, mais
un joueur expérimenté.
Si tu parles de senteur, moi ça me fait flipper.
Ouais, non, mais senteur, c'est si tu le doses à ton, c'est si tu. En gros, senteur, c'est le platine. Voilà. Non, si tu veux juste le finir une fois, mais en fait, le jeu commence vraiment quand tu l'as fini.
Ouais,
la première fois.
Ouais, le jeu commence vraiment la septième fois où tu recommences. C'est comme ça.
Non, mais faut avoir une telle patience.
Ton premier run, c'est une trentaine d'heures, je dirais. Pour
mais pourquoi tu dis
peut-être un peu moins pour un joueur.
Tu dis que ça commence vraiment la deuxième fois parce que là t'as vraiment l'XP, t'es en maîtrise.
C'est pas ça, c'est que ouais, il y a un petit peu de ça. Si, il y a un peu de ça. C'est-à-dire tu maîtrises le truc et c'est là que tu vas. Je sais pas comment dire, c'est assez particulier. Tu prends du plaisir, hein, sur ton premier run, mais tu souffres peut-être un peu moins sur le deuxième, quoique, hein, parce que la difficulté elle augmente. Mais c'est là que tu trouves ton plaisir dans ce jeu, en fait. C'est face à l'adversité, tu vas être confronté à une difficulté, tu vas faire ton apprentissage, et c'est l'adrénaline qui va que ton cerveau va créer, associé à un peu la fierté d'avoir réussi à passer ton truc. C'est un peu une drogue dure, en fait, hein, tout simplement, hein, voilà, de pouvoir avancer dans ces jeux là voilà.
Bon, bah écoute, je pense que les gens.
Et ma deuxième question.
Oui,
après j'en ai fini.
Ah oui, c'est vrai que t'avais encore une question, voilà. Pardon.
Ma deuxième question, c'est quand tu n'as donc pas du tout fait des Dark Souls et etc, il y a des codes ou des choses sur lesquelles on va passer, hormis les petits passages ou les clins d'œil, mais il y a vraiment des trucs sur lesquels je vais passer à côté complètement.
Bah, l'histoire plus ou moins, même si là ils ont fait un effort, c'est-à-dire qu'au début l'histoire elle est très opaque dans ces jeux-là, c'est-à-dire qu'on ne te la raconte quasiment pas. Là ils ont fait un petit effort, au début on t'en raconte un peu. Après, tout le monde est à la même enseigne, c'est-à-dire que si tu veux la suite, il faut aller la chercher. Mais au début, on te fait un pitch un peu plus poussé que d'habitude. Et puis, tu as une espèce de fil rouge à suivre, quand je parlais du Nexus tout à l'heure, où tu as 5 trônes où il va falloir replacer les âmes des boss que tu vas vaincre. Enfin, voilà. Tu as cette espèce de fil rouge à suivre. C'est Dark Souls 3, c'est la conclusion de la série des Dark Souls. Vous allez plus ou moins passer à côté de l'histoire des trois premiers. Mais moi, ce que j'espère, c'est que si un joueur va arriver sur cette série avec le 3 et le kiff, j'espère qu'il va aller faire les précédents. Parce que les jeux d'avant sont vraiment top, quoi.
Mais il y a une vraie cohérence au niveau univers scénaristique, oui. Et il y a une vraie conclusion à tout ce que tu aurais pu faire auparavant.
Oui, oui.
Ce qui fait que voilà. le prochain épisode, c'est pas Dark Souls 4.
Non, ils ont dit que ce serait le dernier, le Dark Souls 3, malheureusement.
Ils vont faire une autre série, Bloodborne Light.
Une autre série, on va peut-être avoir un Bloodborne 2. Il y a eu des rumeurs sur un Demon's Souls HD aussi, donc on a de quoi jouer les deux prochaines années, quoi.
Ils veulent toujours pas faire un Otogi 3. Ça me rend fou, ça. Mais bon.
Voilà. Et ouais. Donc voilà. On a
quand Plume est fou. Quand il est vénère, ça donne ça.
Ouais, bon. Non mais vraiment, Otogi, j'ai jamais compris pourquoi From Software avait lâché cette série. Mais bon.
Et même Johnny qui est adorable. Et ouais. Alors donc on va continuer.
Oui, je vous fais flipper, c'est ça.
Non, du tout.
Ouais. Non, bon, bref. En tout cas, tu nous l'as bien vendu.
Ouais. Non, mais j'ai encore deux trois petits trucs à dire, si tu veux.
Ah bon ? Oh là là, mais alors si c'est ça, moi je vais. Vous savez quoi ? Je vais me casser déjà pour commencer. Non, mais après, vas-y. Dis-nous, qu'est-ce que tu voulais rajouter ?
Sur les combats de boss dont on n'a pas parlé, qui sont assez grandioses.
Bah, on en a vu un tout à l'heure qui était optionnel, dont tu nous as parlé justement.
Ah oui, on en a parlé rapidement d'un.
Ouais.
Voilà. Donc, tu vas avoir pas mal d'adversaires. Très bien mise en scène en fait ces combats là. Mm-hmm. Voilà.
Pas de problème
avec des phases comme dans Bloodborne.
Pas de problème de verrouillage d'ennemis, de caméra.
Il y a des boss qu'il faut pas les verrouiller. Il y a des boss, tu les verrouilles dans certaines phases, tu les déverrouilles dans d'autres pour pouvoir fuir. Enfin voilà, toi, c'est à toi de faire ta sauce après. Hein. Mm. Voilà. Donc les boss qui sont vraiment pas mal fichus et un petit point noir tout de même.
Ouais.
Voilà, sur ce jeu qui n'en est pas vraiment un. En fait, le jeu te donne une impression de linéarité. Ça c'est dû au fait que je parlais de panorama gigantesque tout à l'heure. En fait, chaque zone est géante, vraiment géante. Et du coup, il y a un truc que tu retrouves pas, qu'il y avait dans Dark Souls par exemple, c'est-à-dire dans Dark Souls, tu commençais le jeu, t'allais sonner la première cloche, tu te retrouvais dans la chapelle derrière, donc ça c'est quoi pour un joueur novice, c'est quelques heures de jeu, 5-6 je dirais à peu près, et en fait tu prends un ascenseur et tu te retrouves au tout début du jeu, et tu fais mais attends, j'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres.
Bah parce qu'il faut des raccourcis pour pouvoir aller plus loin, comme dans tous les Dark Souls.
Cet aspect-là, il disparaît un peu de ce Dark Souls 3 parce que malheureusement, les zones elles sont trop grandes et c'était pas possible, je pense, d'enchevêtrer les niveaux comme ça. Voilà.
Ouais, parce que c'était un des principes des précédents où t'as une porte qui est fermée à un endroit,
oui, voilà,
tu fais le tour, ah bah tiens en fait je peux l'ouvrir et maintenant du coup j'ai un
peu c'est un peu du Metroidvania quoi, un peu quelque part, voilà. Donc là t'as pas cet aspect là, mais c'est largement compensé par le fait que les zones en elles-mêmes elles soient gigantesques, en fait elles sont enchevêtrées elles-mêmes toutes seules, voilà.
D'accord.
Donc c'est non le jeu est génial.
Bah ouais, franchement à la description ça donne envie. Après moi je suis pas je donne mon avis hein. Personnellement je suis pas un énorme fan de Dark Souls.
De la souffrance.
ouais non mais c'est vraiment un jeu voilà ce type de souffrance là me correspond pas trop. Mais va bien falloir que je m'y mette parce que j'avais essayé de commencer Bloodborne et à un moment à force de me dire ah oui mais non mais c'est un des jeux de l'année 2015 pourquoi tu l'as pas fait bah va falloir que je m'y mette aussi. Enfin bon, bref. Celui-là, pour toi en tout cas, c'est bien parti pour être celui de l'année 2016.
Je pense, hein, on est quoi ? On est en avril là, c'est ça ? Bah, c'est mon jeu de l'année. Hein.
Bah alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas culte ? Qu'est-ce qui fait qu'il est juste fantastique ?
Je sais pas, j'ai du mal à imaginer de mettre un 5 sur 5 jeu, une note max. Pour moi,
est-ce que tu penses que c'est l'épisode dont on parlera le plus de la saga ou il est moins fondateur que.
Non, bah, voilà. C'est, comme je disais, hein, c'est pas juste un best-of, c'est vraiment une relecture. Et,
c'était peut-être le premier qui était culte. Qui méritait plus d'être culte.
Je sais pas. Mais ouais, voilà, le 5 sur 5, moi, me gêne un peu, quel que soit le jeu, en fait. Hein, toute
d'accord.
Façon, parce que, comme j'ai dit, il y a 2-3 petits défauts, hein, tout de même. Donc, après, est-ce qu'un jeu avec 2-3 petits défauts mérite un 5
sur
5 ?
Ah oui, toujours. Oui. Il peut. C'est simple. C'est un jeu dont on parlera toute ta vie de joueur.
Ouais.
Après, GTA 5, par exemple, je pense qu'il le mérite largement.
Je pense que c'est du chipotage. Tu vois, le 4,5 ou le 5, ça reste un jeu de l'année.
Bon,
un jeu de l'année, voire même de la décennie.
Bientôt, on te fait confiance et je pense que les fans dont vous faites forcément partie hein, chez nos auditeurs et les personnes qui nous regardent, de toute façon, je pense qu'ils l'ont déjà précommandé et qu'ils sont déjà dessus. Ça se trouve au moment où on est en train de parler.
J'ai pas mal d'amis qui l'ont importé du Japon. Hein.
Dans quelques temps, 4,5 ou 5 sur Gameblog, ce sera un débat qui n'existera plus.
C'est vrai ? Tu utilises des trucs, toi hein.
Non.
Si, si, j'utilise pas mal de trucs. Ça sort le 12 avril sur PS4, Xbox One et PC. Le test PC devrait pas tarder à arriver aussi.
Ouais, c'est Camille qui s'en occupe.
On va voir un petit peu ce qu'il donne avec une bonne petite config et une config, disons, plus moyenne pour voir un petit peu s'il est bien optimisé. On vous en donnera des nouvelles bientôt de ce Dark Souls 3.
Avec quelqu'un, il faut le dire, Camille Allard, oui, qui teste donc Dark Souls 3. Au clavier.
Au clavier.
Voilà.
Non, je lui ai branché la manette. Hein,
d'accord.
Qui est venu lui dire.
Il a apprécié parce qu'il voulait pas.
Tu sais qu'il a bouclé Dark Souls 2 au clavier.
Les PCistes sont.
Ah, lui, c'est un vrai PCiste.
Impressionnant.
Oui. C'est un garçon qui ne veut pas de manette.
Le meilleur d'entre nous.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est impressionnant de vouloir à ce point-là vouloir continuer avec un clavier et une souris. Ça mérite même qu'on lui tire notre chapeau.
Il sera au clavier et à la souris.
Il va se scotcher un clavier sur le ventre. Et ça, comme, ça.
Comme un piano debout.
Bon, en tout cas, on vous en parle très bientôt de Dark Souls 3 sur PC, comme d'autres jeux d'ailleurs qui vont arriver aussi
et
sur
puis
PC.
Et aussi une petite...
oui, dis-moi.
Quelque chose, mais pourquoi donc
le Warning Day One, on va revenir dessus forcément.
Ah bah oui, quand il y aura le patch hein. 1.02,
ouais.
On vous tient au courant.
Prévu pour le lancement ?
Oh, j'en sais rien.
Oh, alors le mec, il a rien à foutre.
Moi, j'en sais rien, je suis pas là pour vous donner des infos, moi.
Putain, mais il fait pas les choses à fond, il est pas en train de le coder, etc. Il
faut poser la question aux gens de chez From Software.
Non, mais à la limite,
il est déjà sorti sur la version Jap, donc je pense que ça devrait pas tarder à arriver chez nous.
Non, mais fous tes pieds sur la table et dis-le, mets ta main dans le ben comme ça, mais qu'est-ce que j'en ai à péter, moi, de votre patch, de toute façon. Enfin, allons-y, de toute façon, on est plus à ça près dans ce podcast qui est complètement parti en couille. Bref.
Et c'est ça qui est beau.
Oh, t'as dit un mot
un
pas
mot
beau.
Ouais, bon, j'en dis tout le temps.
On va refaire le podcast.
T'as dit couille.
Ouais. Moi, j'aime bien.
Deuxième
t'as
fois,
pas le mot couille.
Couille, troisième fois, quatre.
Oh, je m'en branle, moi, de ça.
Ouais, voilà. Bon, comme chaque semaine, vous le savez, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et nous allons passer au hors-jeu hebdomadaire de chacun des intervenants de ce podcast. Et nous allons commencer avec toi, Johnny One, justement. Oui. Tu vas nous parler d'un truc, alors là. D'habitude, on parle de ciné,
de séries,
d'exposition,
de
séries, de livres. Exactement, toi, tu veux nous parler d'un resto.
Ouais, un resto. Alors,
j'aime bien. Moi aussi, j'aime
ça,
bien.
C'est complètement fou. Et quel est ce resto dont tu vas nous parler qui se situe donc au 9 rue d'Argenteuil?
Alors, le McDo
le
de la place Clichy, excellent menu, choix exceptionnel.
Ça aurait pu être le Burger King.
Cuisson à des burgers incroyables.
J'aime beaucoup Burger King. Tiens, il y a des très bons restos de burgers hein, qui ouvrent en ce moment.
Oui, il y en a partout. Bref, 9 rue d'Argenteuil, dans le premier à Paris, ça s'appelle
Sanukia, c'est. Pas très loin de comment elle s'appelle l'avenue de l'Opéra hein,
oui sens, mais c'est près de la rue Sainte-Anne quoi
voilà
à Paris,
de l'autre côté en fait de l'autre côté du boulevard donc Sanukia c'est un restaurant japonais alors c'est pas un restaurant japonais comme ceux qu'on connaît d'habitude avec des sushis
des brochettes
etc ouais. Qui généralement
des pizzas,
qui généralement ne sont pas tenus par des japonais là non là c'est un vrai resto japonais et c'est pas donc du sushi de la brochette là c'est du vrai plat de tous les jours c'est la cantine en fait voilà et donc leur plat principal c'est le udon c'est des
nouilles, non
ouais, oui. Des nouilles, voilà, des nouilles, des genres de spaghettis, mais assez épais.
C'est très
voilà.
Très bon.
Ouais, c'est délicieux. Et donc, en fait, eux, ils les font sur place, leurs nouilles, et ensuite, ils te les font cuire. C'est assez marrant parce que t'as la cuisine au.
Ça aurait été malheureux
du...
qu'ils les fassent pas cuire, hein, parce que bouffer des nouilles sèches, je peux te dire que c'est coton.
Donc, t'as la cuisine au milieu du resto. Et donc, tu as plusieurs types de plats, en fait. T'as les udons qui sont servis directement dans un bouillon, ceux où tu as le bouillon. À verser toi-même, soit à tremper dans une sauce chaude ou se tremper dans une sauce froide. Et donc moi celui que j'aime bien c'est le Kamatama Udon je crois, quelque chose comme ça.
Qui peut se traduire Carole, Kamatama Udon.
À tes souhaits, c'est ça, non ?
Non, tu n'as pas dit.
À tes souhaits, c'est ça ? Non,
non
c'est
vrai.
Alors, que
c'est,
ouais.
Oh, c'est ça, là, le
ouais,
Kamatama.
C'est ça, le Kamatama. Alors, disons,
ce
en fait,
sont
donc,
tes propres
les...
photos ?
Non, ça, c'est des photos qu'on a
ça
chopées
a
sur le net avec Poufy.
Qu'est-ce
donc,
qu'il y a dedans
tes... Alors, t'as les nouilles, tu vois.
Ouais.
Tu as au milieu, là, c'est un œuf mi-cuit. Tu as des oignons. Moi, je les vire, les oignons, parce que j'aime pas ça. Des petites algues aussi, je les vire, parce que j'aime pas. Du sésame.
Puis il y a les pâtes aussi, je les dégage.
Du sésame.
J'aime bien le bol.
Du sésame. Et en bas du plat, c'est tu vois, c'est de la pâte de beignet en fait. Donc ça c'est marrant parce que tu le vois faire le gars en cuisine en fait, il trempe ses mains dans la pâte et il égoutte au-dessus de la friteuse. Et donc c'est ces trucs là que tu retrouves après dans ton plat.
D'accord.
Donc c'est des trucs qui sont assez simples. Ah, j'ai pas dit, il y avait aussi une espèce de petite purée de radis. Et donc ils te servent ton plat, toi tu fais ton mix, tu mélanges un peu tout dans ton assiette, tu verses un peu ta sauce comme tu veux et tu manges ça. Donc c'est que des ingrédients simples mais c'est vraiment délicieux. Alors le budget c'est pas très cher hein, c'est entre tu peux t'en tirer même si t'es pas un gros mangeur entre 10 et 30 euros par personne je dirais.
D'accord.
Ça dépend si tu prends des boissons, une entrée, voilà.
Alors petite précision,
oui.
Parce que l'habitude des restaurants japonais dans ce quartier c'est de ne pas prendre la carte bleue. Est-ce que celui-ci, c'est le cas aussi?
Ça prend la CB, ça prend la CB.
Là, oui, ou la Sécu.
Non, c'est vrai, c'est la plupart des cartes ne prennent pas la carte bleue.
Il y a un autre truc que Poufi vous montre, c'est le karaage. Donc le karaage, c'est du poulet pané qui te servent avec une petite salade de choux et du.
Je sais, j'en achète chez Tang. Faut pas le dire.
C'est juste délicieux.
Les karaage, c'est.
Donc leurs nouilles sont délicieuses, leurs entrées sont délicieuses. Ils font un autre truc aussi, une boisson, ça s'appelle du calpis. C'est une espèce de lait citronné. Voilà, ça aussi, c'est très, 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 très bon.
Et vous pouvez voir si vous êtes premium que nous avons deux personnes qui n'en ont rien à secouer. Ils en ont rien à foutre.
Au contraire, on est en train de se dire quand est-ce qu'on y va. Mais j'ai un truc dans
l'œil. On adore le Japon.
Voilà, vous êtes pris en flagrant délit.
Bien sûr.
On a appris que la carte bleue était prise, que c'était de 10 à 30 euros.
Ouais, voilà.
Et c'était fait avec le
paquet. Tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Tu me rappelles le mec dans le péril jeune.
Moi, je sais faire plusieurs choses à la fois.
Le mec dans le péril jeune, là, combien machin 15%, monsieur. Ouais, ok, d'accord. Bref. Bah écoute, ça s'appelle
Sanukiya.
Et donc, Sanukiya.
Un petit gage de qualité, justement, dans ce restaurant. C'est-à-dire que quand tu y vas, tu attends. Il y a la queue devant. Toujours.
D'accord.
Voilà,
mais c'est le cas aussi dans les autres.
C'est un gage de qualité.
Le Sapporo aussi. Et d'autres ont beaucoup ça.
Sapporo, c'est lequel? C'est la cantine.
Celui qui
le...
fait l'angle.
Attends, c'est celui qui est tenu par. Attends, non, je confonds avec un le Kintaro. Voilà. Moi, c'est le meilleur jab de Paris, moi, pour l'instant. J'en ai fait pas mal. Et voilà.
On fera une compète avec d'autres à ce moment-là.
Donc, je conseille fortement aux habitants de Paris ou aux gens qui sont de passage. Moi, je sais que tous les gens qui me rendent visite, je les emmène là-bas. Voilà.
Ok, eh ben, écoute, c'est atypique et c'est bien.
Adresse, 9 rue d'Argenteuil.
Rue d'Argenteuil.
Voilà. C'est dans le deuxième arrondissement.
Premier. Tu sors métro Pyramide.
D'accord.
À Pyramide, voilà. D'accord.
Tu sors métro Pyramide. Vous voyez la librairie
de
Junko?
Ah, ben bah, oui, à côté de Junko, ouais. Voilà. Si c'est à côté de Junko, c'est.
C'est l'ancien magasin de bagages.
Alors là, j'en sais rien.
Wow. Bon. Ah, ouais. Ah, bah alors, oui, ça veut tout dire. Ben c'est bon. L'affaire est dans le sac.
Voilà,
alors.
Bien sûr.
Ça veut tout dire.
Elle était super.
Bon,
super.
On va passer au deuxième hors-jeu. Et ça tombe bien, c'est le mien. Tiens, hop, c'est moi qui vais m'exprimer un petit peu. Et vous allez suivre tous les deux.
Oui,
vous
allez suivre.
On fait une fiche de lecture à la fin.
J'espère bien que vous allez me faire une fiche de lecture parce que sinon.
Non, mais je dois avoir un problème psychologique aujourd'hui.
Exactement. Bon, le petit hors-jeu que je vais décrire là, c'est un film qui est sorti il y a quelques semaines. J'ai pas eu l'occasion de vous en parler encore parce qu'il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés entre temps, mais j'ai été voir Midnight Special au cinéma, qui est un film absolument magistral.
Special.
Un film de Jeff Nichols qui avait réalisé Mud avec Matthew McConaughey, qui était une espèce de petite histoire un peu. Alors on le compare beaucoup à Spielberg. Vraiment beaucoup beaucoup à Spielberg, et il y a certaines personnes que ça énerve dans les milieux cinématographiques. Je dois avouer que c'est vraiment impossible de ne pas penser à E.T., de ne pas penser à Rencontre du troisième type quand on voit ce film. C'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui visiblement est très très spécial. Il lui arrive par moment d'avoir des crises qui vont passer par ses yeux, qui vont s'illuminer, qui vont littéralement brouiller tout ce qui se passe autour de lui. On ne sait pas pourquoi il est en fuite, on l'apprendra par la suite, mais il est avec son père qui essaye absolument de le protéger, et un copain de son père aussi. C'est un road movie incroyable, extrêmement touchant, avec une Kirsten Dunst comme dans la saison 2 de Fargo, qui est très juste, qui est très émouvante. Et oui, il y a Kylo Ren, il y a Adam Driver qui a un petit rôle de scientifique très rigolo. Ça lui va très très bien, en tout cas ça lui change du rôle de terminal littéraire dans Star Wars épisode 7. Il y a aussi évidemment l'acteur fétiche de Jeff Nichols, qui est Michael Shannon, que vous connaissez aussi peut-être pour la série de Scorsese dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Boardwalk Empire. Voilà. Et donc c'est un bon casting, un super scénar, une belle mise en scène, de très belles images. Encore une fois, ça se passe dans le sud des États-Unis, tourné en décor naturel. Il y a une super photo. Vraiment un film que je vous conseille énormément, qui mérite en tout cas tous les éloges qu'il a reçus. Musique très bonne, je ne sais plus qui a composé, mais musique
très
bonne.
Parce que je trouve que dans les films de Spielberg, comme dans beaucoup de créations, la musique est toujours très importante. On en parlait dans FF15. Mais c'est vrai que même un bon film servi par une mauvaise musique, ou une musique classique hollywoodienne, peut ne pas avoir la puissance évocatrice et émotionnelle qu'une très bonne bande-son peut apporter. Ouais. Un E.T. par exemple, un Rencontre du troisième type, sans la musique, c'est pas le même film.
Tu verras, je vous le conseille plus que fortement, allez-y vraiment maintenant. C'est vraiment dans la veine de E.T. et de Rencontre du troisième type.
On y va maintenant.
On fasse la fiche de lecture maintenant, pour prouver qu'on a écouté.
Pas besoin.
ça fait plaisir.
Pas besoin. En tout cas, je vous conseille fortement.
Bon, Eponal, il va direct, hein, je crois.
Et si jamais il est pas,
elle a dit maintenant, c'est bon, j'y vais.
Et si jamais il est plus dans votre ciné parce qu'il est sorti il y a quelques semaines, bah vous pourrez vous le choper en Blu-ray. Vous ne le regretterez pas. On va passer au troisième hors-jeu. Et il est pour qui le troisième hors-jeu ?
Il est pour qui ? Il est pour qui ?
Il est pour Julien.
Bonsoir. Oh.
Et c'est aussi un film.
Ça fait plaisir. C'est un film. Un film qui est sorti il y a un bon bout de temps.
Oui.
Que j'avais déjà vu lors de sa sortie, qui m'avait extrêmement touché et ému. Il s'agit de The Tree of Life, l'arbre de vie, de Terrence Malick. C'est un film à fort potentiel.
Dodo.
Non, je trouve pas. Non. Philosophique, existentialiste. Ça parle de l'histoire d'une famille des années 60-70, de leur évolution, de leurs amours, de la naissance de leurs enfants. Des problèmes qu'une famille peut rencontrer dit comme ça on pourrait se dire bon ok c'est un film social habituel, bon déjà servi quand même par un casting quand même assez intéressant,
on peut citer vite fait hein.
Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn et des enfants, un trio de jeunes enfants, de jeunes garçons absolument remarquables, vraiment.
Alors leur nom
Là, c'est plus compliqué.
Moi, vous aider.
Nom, ouais.
Et puis, peut-être que si vous êtes premium et que vous voyez les vidéos, puis de toute manière, vous le voyez dans le hors-jeu, vous voyez des images de cosmologie, le soleil, la création, le Big Bang, des fontaines, des tornades, même des dinosaures, etc. Et ben, oui, tout ça est mêlé dans une espèce de valse universel, intemporel, du temps qui passe, de la création de l'humanité aux miniatures, de la vie d'une famille, finalement somme toute banale, de la vie à la mort. C'est extrêmement fort, extrêmement poignant, extrêmement universel. Moi, je trouve que c'est pas du tout... Il y a des gens qui n'ont pas du tout adhéré.
C'est pas
qui
un film
pas.
Typique. C'est ça que
ah non,
tu veux
c'est
dire.
C'est un film de Terrence Malick, donc déjà, a priori, si tu suis un peu sa filmographie,
bah, la
quand même...
La ligne verte,
rouge, verte, c'est un autre.
Ouais, plutôt...
c'est son film, l'un de ses films les plus accessibles, mais, enfin, voilà. Mais quand même, il y a des thèmes, il y a des choses.
Il explore les thèmes.
Ouais, bah moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu.
Bah, c'est toi qui me l'as fait découvrir, ouais. C'était magnifique, très très beau.
Si vous êtes
ça
jeune
pousse
parent,
à la réflexion.
Si vous, je sais pas, si en fonction des liens que vous pouvez avoir avec vos enfants, si vous en avez, avec vos parents, avec vos grands-parents, si parfois vous posez des questions sur notre place dans l'univers, sur la vie en général,
sur la réalité virtuelle.
Ouais, mais ouais, mais je pense que quand t'es fasciné par la réalité virtuelle, etc., c'est qu'en fait t'es fasciné par la place de l'homme dans le monde et de son avenir, en fait. Parce que pour moi, la réalité virtuelle, c'est un outil, et c'est un outil qui va redéfinir l'humanité. Je m'arrête là.
Je l'ai jamais entendu cette phrase.
Ça existe, mais vraiment.
Mais ouais. Vraiment là.
Et ben là, en fait, ça parle un peu de tout ça. Et je vous invite à le regarder. Et certains d'entre vous décrocheront et trouveront ça un peu lent. Mais moi, je trouve ça absolument formidable. Moi, c'est un film que j'aurais rêvé voir un peu plus jeune aussi. Peut-être que j'en aurais pas eu tous les codes. Et puis il y a une bande son, pareil, mais incroyable. Alors signée par Alexandre Desplat en partie, mais aussi énormément de musique classique à l'orgue, somptueuse.
Du zouk, du reggae.
Non.
Tectonique.
Non, mais vraiment.
Mais
pour
de
moi,
lui,
c'est...
quoi.
Ouais, je pourrais en parler longtemps et à la fois.
Et
faut
pas,
fois,
et
faut
pas du tout.
Il faut pas, non, mais à la fois faut pas.
Il faut le voir, il faut le vivre,
faut l'expérimenter. Ouais. C'est pas très long en vrai. Ça dure, c'est un film lent, mais il y a des films lents qui durent 3h30 et tu fais waouh. Et là, ça dure 2h05, 2h10, même pas. Donc allez-y. Je pense que ça peut vous laisser une petite.
Disponible.
Une petite, oui,
en VOD, Blu-ray,
oui, bah,
DVD.
On l'a vu sur le PSN, je crois.
Sur le PSN qu'on a trouvé,
PSN,
ouais.
Sur le PSN, il y est. Hein, sûrement chez vos trucs de VOD classiques, numéricables, Free et CGTL et je ne sais quoi.
CGTL.
CGTL.
Ça rien, comment ça s'appelle.
CGTL.
Allez-y.
N'oubliez pas de passer par votre navigateur Netscape, hein, surtout
voilà,
quand vous
ça.
Aurez.
Voilà. Par votre WAP.
Club Internet fait une promo en ce moment.
Je ne suis pas sûr que ce soit sur le Minitel, non.
Ah non, non, je ne pense pas.
Sur
non
le
plus.
WAP.
Sur
l'ICOS,
c'est bien.
Ouais.
Mais franchement, moi je trouve qu'il y a des films qui sont appréciables et puis il y a des films qui te laissent une trace. Et je sais que depuis que je l'avais vu il y a au moins 4 ans, j'y pensais encore. Et l'avoir revu, bah, je sais que là, boum, j'aurais repris pour 4 ans.
D'accord.
Est-ce qu'il est sorti en quelle année ?
Je crois que c'est 2011.
2011.
Ou 2012.
Un truc comme ça, ouais, il me semble aussi. Mais allez voir Midnight Special surtout. Bref. Dernier hors-jeu de la semaine, Carole, c'est à toi que revient l'honneur de parler du dernier hors-jeu de la semaine. Et il s'agit Bah de toute une filmographie en fait, puisque c'est
oui,
pas
d'une personne, de son voilà. histoire, de son style.
Mais pourquoi
Puisqu'on va parler de Sergio Leone. Eh bien parce que il y a pas si longtemps, Sergio Leone qui nous a quitté, hein, mais qui était pour moi un grand réalisateur. J'ai fait découvrir à Julien récemment, il était une fois en Amérique. Mm-hmm. Et pour moi, c'est un des plus beaux films de Leone, même si je suis beaucoup plus fan de western que de films de gangsters.
Parce que
c'est aussi le dernier film, son dernier film.
Se passe à une époque contemporaine, c'est un film avec Robert De Niro qui se déroule
à Brooklyn.
C'est celui
voilà.
avec De Niro et.
Exactement, ça se passe à deux périodes différentes hein, de la vie de Niro, même à trois périodes de sa vie. C'est vraiment un très très beau film. C'est le dernier donc réalisé par Sergio Leone. Il y a eu la trilogie, hein, des Il était une fois. On a eu Il était une fois la Révolution, Il était une fois l'Amérique. Donc c'est le dernier. Il était une fois dans l'Ouest. Il me semble que dans l'Ouest, c'est le premier de la trilogie. Et on a eu la trilogie des dollars pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand, qui est mon film préféré de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Elie Wallach
et Lee Van Cleef extraordinaire.
Lee Van Cleef qui n'est plus de ce monde. Tuco, Elie Wallach nous a quitté il n'y a pas si longtemps.
Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an ou deux, je crois.
Il y a un an ou deux, peut-être. Trois, je sais plus. Très très bon acteur. Et Clint Eastwood, bien sûr, mon acteur fétiche, mon acteur préféré. Et pour moi, vraiment, Sergio Leone, c'est quelqu'un qui a su, qui a été très critiqué. Extrêmement critiqué par les journalistes à l'époque, par la critique cinéma, par.
Salaud.
Les autres réalisateurs, ils jugeaient que ces films étaient mauvais, vraiment. Hein. Ils se faisaient déglinguer. On lisait pas mal de choses avec Julien il y a quelques jours, justement, sur Leone. Et par contre, le public adorait ces films.
Comme pour les films de Danny Boone, au final.
Et d'ailleurs, oui, c'est un petit peu
on
ça.
On peut faire le parallèle entre Sergio Leone et Danny Boone. Hein,
dans un
Sergio Leone, Danny Boone, même combat.
Mais c'est vrai que Leone a créé le style western spaghetti. C'est ça qui plaisait pas, d'ailleurs. Pour la critique, c'était pas de vrai western. Alors que pour moi, c'est vraiment la base. Du western, les westerns de Sergio Leone, avec la sublimée par la musique d'Ennio Morricone d'ailleurs.
Avec voilà, qui
on reparle de musique.
On reparle de musique
Alain
d'ailleurs, hein, ça a eu son
sapin. Connaît un petit peu, notre petit AHL connaît bien Ennio Morricone. Hein.
Dans la biographie AHL, la chance. Tu le crois ça, découvrez-le au Monoprix à 29,99€, promotion exclusive.
Ou à la FNAC.
Mais il y a effectivement des anecdotes avec Sergio Leone.
Bah, c'est vrai, il faudra vraiment que j'en parle avec lui, je le savais pas, parce que j'ai pas lu ton livre.
L'aveu.
Non, je le sais, elle me l'a dit il y a quelques jours.
L'aveu avant la séparation.
Et c'est vrai que Sergio Leone, il avait un style très particulier. Il y a pas mal de réalisateurs. On reconnaît tout de suite la patte de certains réalisateurs. Notamment, on n'est pas mariés, mon frère, t'as vu. Et Leone fait partie de ces gens-là. On reconnaît tout de suite leur patte. Et c'est vrai que dans ces films.
Il y a ces plans de profil, par exemple.
Alors, il y a des plans très rapprochés.
Très rapprochés, avec un grand espace.
Très large.
Sur le devant du visage.
Exactement.
Et une partie seulement du visage qui occupe l'espace droit.
Qui occupe tout l'espace en fait, et il va faire ce ping-pong entre les plans serrés et les plans très larges, et on le voit notamment dans ses westerns, dans Le Bon, la Brute et le Truand, dans Il était une fois dans l'Ouest, on a ces plans sur les visages des acteurs, et à chaque fois en plus dans ces westerns, les acteurs ont des yeux, ils prenaient tout le temps des acteurs avec des yeux magnifiques. Il y a Diane Maria Volonté aussi qui joue dans Pour quelques dollars de plus, qui joue le rôle de l'Indien qui est le rôle d'un fou, tu vois. Il a toujours pris des acteurs assez incroyables, et il a cette manière de filmer, il a cette manière de faire durer les choses.
Ah bah, le Mexican stand-off de la fin de...
Ah bah c'est juste...
Du Bon, la Brute et le Truand est incroyable.
C'est fantastique.
Arriver à faire monter à ce point-là la tension.
Avec la musique d'Ennio Morricone.
Oh là, ce truc, tu te dis, mais...
Cette scène, elle est juste incroyable.
Des gens vont se dire que c'est chiant, et en fait, tu la regardes
mais
et
c'est
tu
pas
fais...
chiant du tout. C'est comme le début d'Il était une fois dans l'Ouest, où ça dure une heure. Ça dure une heure, et d'ailleurs, petite anecdote, Sergio Leone avait proposé le rôle, c'était pas Bronson en fait, qui devait jouer dans Il était une fois dans l'Ouest, c'était Clint Eastwood.
D'accord.
Et Clint, après Le Bon, la Brute et le Truand, il commençait un petit peu à en avoir marre du style de
Bronson.
De
dedans, il joue le joueur d'harmonica, c'est ça.
Ouais,
et il a sa plaque,
c'est la
fameuse plaque en dessous du poncho.
La plaque en dessous du poncho, c'est pour une poignée de dollars.
Ah, bah,
et c'est Clint Eastwood. Mais effectivement, il était une fois dans l'Ouest. Sergio Leone aussi dans le 3, effectivement. Où il s'appelle d'ailleurs Clint Eastwood. Et donc du coup, il lui avait proposé. Et moi, parce que j'ai la biographie de Clint Eastwood qui est vraiment très intéressante, je vous la conseille. Pardon ?
Tu l'as lu celle-là ?
Ah, celle-ci, je l'ai lue. Ouais, Clint.
Alors que Alain.
Mais j'adore Alain. Non, mais Alain,
non, mais ça veut
si
dire
que
tu t'en fous d'Alain, c'est
mais
juste ça.
Pas du
merci,
tout,
voilà.
Mais pas du tout. Mais effectivement, Clint Eastwood.
Tu préfères un mec qui est pour le port d'armes
à
un mec comme Alain qui est pour la paix dans le monde.
Effectivement, mais on n'est pas là pour parler politique, chacun ses idées. Et je respecte infiniment Clint Eastwood pour non seulement pour l'homme, mais surtout pour le réalisateur, pour l'acteur, etc. Et il a eu vraiment une vie pas facile. Ça n'a pas été facile pour lui de percer. Au départ, on lui disait qu'il avait aucun charisme, qu'il était trop grand, que c'était un gringalet. Clint Eastwood. C'est assez intéressant. Mais tout ça pour revenir à Il était une fois dans l'Ouest, il a refusé parce qu'il trouvait que c'était beaucoup trop long. Il a le souvenir de pas mal de moments sur les tournages où ça prenait trois plombes, c'était fatigant, c'était usant, c'était même parfois dangereux, notamment dans la scène où ils font exploser le pont à la fin du Bon, la Brute et le Truand. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont un peu suivi. Et donc c'est Bronson qui a repris ce rôle-là et donc ça donne un film qui est juste incroyable, hein, une musique fantastique avec Claudia Cardinale aussi dans Il était une fois dans l'Ouest.
Claudia Cardinale, nom de Dieu.
Incroyablement belle.
Elle est encore plus belle dans un autre western qui
s'appelle... Dans Cartouche, qui n'est pas un western, mais Cartouche avec Belmondo, elle est aussi fantastique.
C'est... mince, ça y est. Les Professionnels.
Ah,
dans Les Professionnels, Claudia Cardinale
aussi.
Est désirable comme aucune femme au monde.
Ouais, je m'en souviens.
Faut le revoir.
Si
tu cherches les films qui ont inspiré Red Dead Redemption, t'as Les Professionnels,
La Horde Sauvage.
Magnifique. Voilà, ça c'est
genre
de film.
J'adore les westerns.
C'est vrai.
Très très belle Claudia Cardinale. Et donc voilà, pour moi, Léon a vraiment offert au cinéma et au public des films qui font partie des plus grands films. D'ailleurs, je crois que Le Bon, la Brute et le Truand aux États-Unis sur IMDb, il me semble, est classé quatrième meilleur film de tous les temps.
Alors moi, j'ai une autre question parce que j'ai toujours vu en français. Je me suis jamais intéressé à
the
les regarder.
The Good, the Bad and the Ugly.
En VO, mais est-ce qu'il était tourné en italien ou pas?
Alors,
non.
Je crois pas. Il y a certaines scènes qui ont été tournées en Italie, mais je crois pas qu'il y ait eu une version.
Il parle en anglais dedans. D'accord. Je me suis jamais.
Non, mais après, il y a eu une version italienne. Mais en tout cas, moi, je l'ai vu.
Ça vient seulement de me sauter au visage parce que
j'ai
fait
en français.
Il fait pas.
D'ailleurs, il y a une version.
Tu crois que je t'ai pas vu là? C'est quoi ce racisme ordinaire?
D'ailleurs, il y a eu une version.
Buongiorno.
Mais il y a eu le trois quarts de ces westerns à Léon ont été tournés ou en Italie ou en Espagne. Contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai qu'il y a eu une version complète, puisqu'il y a eu beaucoup de scènes qui ont été coupées. Il dure à peu près 3h30, Le Bon, la Brute et le Truand. Et il y a eu pas mal de scènes qui avaient été coupées, notamment une scène dans le désert, une autre scène quand Tuco retrouve ses amis, puisqu'il va chercher des potes à lui pour tuer Blondin. Enfin bref, vous le découvrirez si vous n'avez pas vu le film.
Ah, il faut les voir.
Et donc, en fait, dans cette version, on a les voix, des nouvelles voix, en fait. Et ça fait très étrange. Puisqu'ils les ont remises par-dessus, en fait.
C'est Cyprien et Squeezie qui
doublent. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Squeezie qui double Clint Eastwood.
J'imagine bien Squeezie faire tout court.
Mais arrêtez, moi j'ai rien contre lui, le
quand
pauvre.
On
a, il a une voix tout à fait normale.
Mais
enfin,
nous
bref,
non plus.
Mais nous non plus.
Il a fait Ratchet and Clank.
C'est juste pour la vanne. Tu vois.
Non,
mais c'est vrai que j'imagine bien faire quand on tire, on tire, on raconte pas sa vie.
Quand on tire, on raconte pas sa vie. Voilà, ça c'est effectivement une réplique de Tuco dans un saloon. Il est en train de prendre son bain et on va l'attaquer en traître. Ça c'est très beau. Je connais le film par cœur. En tout cas, pour moi, Léon a vraiment offert de très très beaux, de très belles perles au monde du cinéma. Et c'est vrai que j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce qu'on en a parlé récemment avec Il était une fois l'Amérique, c'est son dernier film. C'est vraiment un très très beau film aussi avec une super musique, encore une fois, forcément un De Niro.
De Niro, Il était une fois l'Amérique, incroyable. C'est les Irlandais dans la mafia italienne, c'est ça?
T'as De Niro.
Je confonds avec un autre film.
Non, t'as De Niro, en fait, c'est son enfance. Tu vois son enfance. Ça se passe à plusieurs personnes. Et en fait, il va rencontrer.
C'est son fils qui va rentrer dans la mafia, c'est
du
ça?
Du tout.
Oh, putain,
non, lui en fait, ce sont des enfants, tu vois un petit peu leur enfant, ce sont les mauvais garçons du quartier, ça se passe à Brooklyn.
Il y a Jopeci dedans.
Jopeci qu'on voit pas beaucoup.
Et le
dans
troisième,
celui-ci.
Rigota.
C'est les Affranchis, ça.
Ça, c'est dans Les Affranchis. Et effectivement,
aussi, là,
non, mais effectivement, le film est juste incroyable. Tu le vois un peu plus âgé après, et après, tu le vois encore plus âgé. Il revient, il cherche à comprendre le pourquoi du comment. Enfin, c'est vraiment un
non,
très,
disons
très
bon
film.
Non, disons pas trop non plus sur ces films.
On vous le conseille.
Toujours est-il que la filmographie de Sergio Leone est dans le cœur de Carole.
Tout à fait. Il y a quelques films aussi un peu plus obscurs, des films italiens, forcément, mais qui ont eu beaucoup moins de succès. Vraiment, ces six plus gros films, c'est la trilogie. Je pense que quand il faut y aller en fait.
Là, Julien n'a même pas attendu qu'on ait fini la séquence.
Quand il faut aller, non, la séquence du hors-jeu. Peut-être, il avait peut-être la courante. Toujours est-il que voilà, la trilogie, dès Il était une fois, la trilogie des dollars. Je vous les conseille toutes les deux. Ce sont vraiment de grands moments de cinéma. Voilà.
Très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette séquence de hors-jeu. Mais il faut d'abord, évidemment, faire un petit instant pub avec Julien.
Alors, je tenais à te remettre, Carole, la biographie d'AHL avec un double collector DVD.
Le pire, évidemment. Qu'il me l'a offert, il me l'a dédicacé avec AHL. Mais on sortait, ah non, mais on sortait ensemble, c'était un peu en dents de scie à cette époque.
Ouais, voilà.
Tu voulais juste
me
foutre dans ton lit, quoi. Voilà. D'accord, maintenant, ça y est, de toute façon, c'est fait. Hein,
donc, dedans, ça parle un peu d'Ennio Morricone.
Oui.
Et de Johnny Hallyday, d'ailleurs, il me semble aussi.
Mais ça parle de Demis Roussos aussi, d'un tas de gens.
On
très
écrit sur les murs, quoi.
Oui, on écrit sur les murs, absolument.
Ah, c'est ça.
Oui, quand je t'aime aussi. Non, on va pas meubler, hein. Tu vas pas nous lire un passage quand même.
Verset 17.
Bah, non, fais pas ça.
Bien sûr que si. Je rencontre l'éditeur d'Ennio Morricone. Il y avait un nom italien.
Avec la voix de Fabrice Lucchini, s'il te plaît.
En apparence, tout s'était bien passé sur son premier contrat. Donc l'éditeur italien me rappelle, il me demande de faire les paroles de 3 nouvelles chansons, en fait des adaptations en français pour Mireille Mathieu. Il y en a une, Un jour, tu reviendras, qui est tout de même le thème principal du film Il était une fois dans l'Ouest. C'est donc écrit par AHL hein, quand même. Et vint ce repas mythique, on me convie à Rome pour l'enregistrement. Là, on me la joue Royal au bar. La production nous paye l'avion, on va au studio de Morricone, on assiste à tout. Rien que pour ça, déjà moi je savoure. Mais un soir, on m'invite à un repas, il fait beau. La place caressée par le soleil déclinant de printemps. La table est dressée en extérieur, cadre typique de Rome. Et là, ça explose dans ma tête. Face à moi, Mireille Mathieu, Johnny Stark, son mythique impresario, Ennio Morricone, son éditeur et Sergio Leone.
Sergio Leone, quoi.
Et là, il mange avec tout ce beau monde et il va faire donc la musique du thème principal de Il était une fois dans l'Ouest. Pas mal, quand même. La suite dans l'incroyable biographie AHL. Audition
dans sa maison.
Voilà, bah c'était le dernier hors-jeu, la biographie d'AHL, on va dire, pour ce hors-jeu hebdomadaire.
Si vous avez lu et que vous avez aimé, vous avez le droit de le dire.
Vous pouvez le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas.
Hein. Vous pouvez le dire si vous voulez, si on vous a fait chier.
Bon, bah merci en tout cas hein, pour ces petits hors-jeux, que ce soit Julien, Carole ou Johnny Wan. Voilà, mets le bien devant, exactement. C'est bon, c'est tout se casse la gueule en plus. Bravo, Julien. Et merci encore une fois aussi pour ce podcast qui était très animé, ma foi, avec deux personnes sous coke, on peut le dire, à savoir voilà, Julien et Carole.
Ben
et
non,
évidemment, merci aussi à Johnny Wan, merci à Poufy à la sono, merci à Epona qui a été toute sage pendant le podcast.
Elle se bouffe la patte, là, elle doit être un peu angoissée, mon bébé.
Voilà. Ouais, bah elle va pouvoir retourner dehors et faire, et faire un petit peu de sport. Hein. Et merci à vous de nous avoir suivis, évidemment, merci de votre soutien. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, là juste en dessous de nous dans le forum. Et surtout, bah, écoutez, portez-vous bien. Portez-vous bien.
Vous faites quoi après tout
Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Ciao.